Et oui, ça sent mauvais.
Tu nous avais fait écouter le son du fennec.
Ça fait. Qu'est-ce
que c'est, ce machin?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan.
Bonjour.
Et Hicham.
Salut.
Et Camille.
Salut.
Et nous avons avec nous aujourd'hui une invitée qui est Héloïse.
Hello.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Oui. Bah, très bien, merci. Non, non, mais tu as bien fait, c'est le plus important. Donc, comment allez-vous tous et toutes?
Bah, très bien, écoute, l'après-midi, fait beau, j'ai un café dans la main, c'est cool.
Exactement. C'est vrai qu'on est pas mal, pour la petite histoire, on est le samedi, le jour où on va fêter nos 2 ans.
C'est
et,
exactement.
En plus,
ça.
Pour une fois, on enregistre l'après-midi, il fait un temps magnifique.
Ouais.
Donc, après avoir enregistré cet épisode, on va aller profiter un petit peu du soleil.
C'est clairement un temps à s'enfermer pendant 2 heures dans un.
Oui. C'est mais bon, après, on va aller profiter d'un petit parc, en attendant que l'apéro de l'anniversaire commence. Donc, l'humeur est plutôt pas mal.
Ah, tout à fait. Ouais. Voilà. Ah, tout à fait.
Et on a le plaisir, bah, effectivement, d'accueillir Héloïse, qui va nous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore traité.
De ce que je me disais.
Donc, on a hâte. Ok, petit jugement.
Non.
Bah, en tout cas, bah oui, on a sacrément hâte de prendre un petit verre avec vous après. Et puis, bah, on va partir sur le filage d'aujourd'hui.
Faisons.
Donc, pour changer, on va commencer par.
Moi,
Camille, guitare électrique.
Oh yeah.
De quoi tu vas nous parler? Non, j'arrête.
Voilà, vous allez peut-être me haïr en entendant ça parce que vous vous êtes dit ah mon Dieu, on a bouffé et rebouffé. Je vais vous parler de Notre-Dame de Paris. Voilà.
Très bien. Bravo.
Ok, voilà. Oui, non mais alors pareil.
Et donc là, les gens éteignent leur smartphone.
Allez, non, salut.
Mais alors, précisons, parce qu'il y a certainement des personnes qui vont nous écouter en différé d'ici 10-15 ans quand on en ressortira de la cave. Non mais parce qu'il y a effectivement, il y a quoi, 3 jours?
Il y a, c'était lundi, non, donc il y a un peu moins d'une semaine,
jours.
Il y a 5 jours.
Bah, 5 jours. Incident déclaré à Notre-Dame de Paris.
Incendie?
Oui.
Incident, t'as dit.
C'est enfin,
oui, incident.
C'est un incident.
Oui, incident, incendie, oui.
Bah, donc, bon, dans les deux cas, ça s'est déclaré. Et effectivement, il y a une partie de Notre-Dame qui a cramé avec des dégâts plutôt lourds, mais pas irréversibles. Mm. Donc,
Enfin, si, la cendre va pas non plus
plutôt irréversible.
Bah,
c'est pas un phénix, hein, c'est une cathédrale.
Bah, t'as jamais vu Full Metal Alchemist, toi? Non mais bon, pour expliquer pour ceux qui écouteraient ça dans quelques mois et qui seraient pas dans l'actualité, mais chouette, on a hâte d'écouter ça. Après, ce sera Héloïse.
Oui.
De quoi tu veux nous parler?
Je vais vous parler en fait de mon parcours avec le végétarisme.
Ah cool.
Voilà, tout à fait.
Fort bien.
Nice.
Cool. Après, ça sera. Il me semble que c'est moi.
Oui,
c'est moi.
Toi.
Et trompette. C'était ma première semaine de pause depuis 2 ans.
Ouh,
bravo.
Donc aujourd'hui,
c'est toi trompette.
Non, c'est calme. Donc aujourd'hui, moi, je vous ferai un petit pourquoi.
Cool.
Voilà. Et je suis très content d'avoir cette petite.
J'espère qu'il sera moins bien que le mien.
Non, mais ça, il n'y a aucune chance. Si on n'est pas là. Mais... Après, ça sera. Toi, il
moi, faut... ouais. Là, c'est le retour d'une chronique animalière.
Ah.
Vous parlez d'un petit animal qui est mignon, mais qui est un vrai bâtard en vrai. C'est le suricate.
Ah, un vrai. Ah, parle, ouais. parle pas de Timon comme ça.
Ah, bah, tu verras.
Et après, ça sera Juan.
Oui.
Qui est en train de sentir très, très fort.
Je mange mon micro. Ouais. Oui, moi, je vais vous parler du parti rhinocéros, qui est un parti canadien. Et je vous en dirai plus tout à l'heure.
Donc, ça a beaucoup parlé d'animaux, quoi.
Oui. Mais,
très bien.
C'est ça.
Bah, écoute, on a hâte. Bah, est-ce qu'on commencerait pas par la demi-heure habituelle de Camille?
C'est parti.
Allez.
Notre-Dame, j'en suis sûr, veille sur mes hanches.
Juste là, un petit géranium.
Bon, allez, au boulot. Ça évitera de penser au reste.
Il est venu le temps des cathédrales.
Précisons qu'on va encore se faire striker sur YouTube.
Eh non.
Donc oui, moi je voulais vous parler de Notre-Dame et je voulais notamment vous parler de la construction de Notre-Dame de Paris, un petit peu parler du chantier, etc. Enfin bref, vous parler des origines de Notre-Dame de Paris. Mm-hmm. Voilà.
D'où le petit géranium. Parce que,
oui, tout à fait. Oui, les gens pourraient ne pas comprendre, ouais. Mais voilà, c'est ce que s'est dit l'architecte de Notre-Dame de Paris en faisant le tour de chantier. Il s'est dit, et là,
Un petit géranium.
Un petit géranium, mais le géranium, malheureusement, a disparu dans l'incendie de...
Misère.
De lundi dernier.
Ah,
voilà. Bref, ça va être long. Donc,
à qui tu le dis?
Avant Notre-Dame, il y avait à l'emplacement de la Notre-Dame actuelle un temple dédié au dieu Jupiter, à l'époque de
quelle l'Antiquité. Époque? Ah oui, l'Antiquité.
L'Antiquité,
ah
oui. Oui. Et ensuite, avec la disparition des religions païennes et l'arrivée du christianisme, eh ben, on va détruire ce temple de Jupiter et on va construire une église, ensuite on va la raser, on va en refaire une autre, plus grande, etc., etc. Donc en fait, l'emplacement actuel de Notre-Dame de Paris a toujours, a un lourd passé religieux. Voilà.
Et juste, pas pour moi, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont pas forcément au courant, l'Antiquité, c'est quand déjà?
Alors, c'est il y a longtemps, je crois.
L'Antiquité, oui. C'est de l'invention de l'écriture.
Et donc,
moins 4000.
Alors ouais, c'est ça. Par contre, je sais plus.
Ah
ouais, non, mais sincèrement, hein, je saurais plus te dire. Okay, mais t'es sur du moins plusieurs milliers
moins beaucoup.
D'années. Moins jusqu'à 300. Alors ensuite jusqu'au début du Moyen Âge. Donc le début du Moyen Âge, c'est quand?
400.
Presque, oui.
300.
Mais c'est le 5e siècle.
Ok.
Voilà. Ensuite, il y a plusieurs dates sur les historiens, mais voilà, c'est le 5e siècle.
Merci. Okay.
Voilà. Alors, Notre-Dame de Paris, bon bah là je vais pas vous demander quand est-ce qu'on l'a construit, parce que je crois qu'on a tous énormément bouffé cette semaine, c'est-à-dire que n'importe qui, je pense, maintenant sait quand est-ce qu'on a posé la première pierre, non?
Oui, c'était le passé.
Ah non, vous avez pas retenu? Moi j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup donné l'info.
Je sais que c'est le 13e siècle.
Nope.
12e siècle.
Non, 1480. Ah, 12e. 1287?
Non.
Ça a été fini au 13e siècle, mais ça a commencé au 12e siècle.
Ouais, plus ou moins, ouais. Mais ça a commencé au 12e, tout à fait.
Il y a eu un incendie en 1487, c'est la seule date que j'ai retenue.
Donc non, en fait, Notre-Dame, le projet, il commence à prendre forme au XIIe siècle. Donc le XIIe siècle, on est à Paris, sous le règne de Louis VII. Et Louis VII, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il est le fils de...
Louis VI.
Absolument, Louis VI le Gros, voilà, bien joué, tu vois. Et Paris est déjà capitale du Royaume de France à cette époque-là, et le Royaume de France, il traverse une grosse période de paix, de prospérité... On est dans une période où il y a une grosse trêve des guerres féodales. Vous savez, les chevaliers qui se tapent dessus pour récupérer un château fort, quoi.
T'expliques bien les guerres féodales.
T'as vu? Je vous ferai un sujet un jour là-dessus, voilà. Et en plus de ça, Paris, c'est une ville qui a un rayonnement intellectuel sur toute l'Europe, étant donné qu'il y a le chapitre Notre-Dame, qui est un genre d'ancêtre d'université, qui est connu dans l'Europe entière, et on a pas mal d'autres collèges qui vont s'ouvrir au niveau de la rue actuelle des écoles, donc sur la rive gauche, dans le quartier Saint-Michel, pour faire concurrence au chapitre Notre-Dame. Donc on a beaucoup d'étudiants étrangers qui déjà à cette époque, c'est une forme d'Erasmus quoi, viennent à Paris pour leur cursus scolaire.
Classe.
Voilà. Et donc on a un évêque à Paris qui s'appelle Maurice de Sully, qui est un type qui a à cette époque-là la trentaine. Il est nommé évêque de Paris en 1160 et il a un projet de dingue, c'est de profiter de cette grande période de prospérité pour construire la plus grande cathédrale gothique qui n'ait jamais vu le jour.
OK.
Voilà. Donc le gothique, c'est un style tout nouveau à cette époque-là, ça vient d'apparaître. Pour vous faire une idée, Notre-Dame de Paris est la 5e cathédrale gothique au monde. Okay. Donc vous voyez, c'est une des premières, mais c'est pas la première. Beaucoup de gens pensent que c'est la première et la plus grande. Mmh. C'est ni l'un ni l'autre. À son époque, ça a été la plus grande, mais ensuite on en a fait des beaucoup plus grandes. Et c'est un style, le style gothique, qui à cette époque-là est considéré comme quelque chose de super bling-bling, de archi-tape à l'œil, qui est vraiment pas apprécié de tout le monde. Donc le but du gothique, c'est de faire des cathédrales de plus en plus hautes, de plus en plus étroites, et avec le moins de pierres possible, c'est-à-dire le plus d'ouvertures de vitraux possible.
Okay.
Quelque chose de très lumineux, pour faire rentrer la lumière divine sur les fidèles, et de très élancé pour rapprocher la terre du ciel.
Oh,
n'est-ce pas?
C'est plaisant.
Alors qu'avant, les églises romanes, enfin moi j'aime beaucoup l'art roman, mais l'art roman c'est massif, quoi, c'est un pâté, quoi, c'est très... voilà. Non mais vraiment, quoi, c'est bam! Tu poses ça là, alors que voilà, le gothique s'est élancé vers le ciel, et donc ça demande à cette époque-là des prouesses techniques qu'on maîtrisait encore coussi-coussa, mais on se démerdait quand même pas mal.
Et je m'y connais pas, mais avec les églises romanes, c'est ça?
Oui.
C'est déjà la mode des vitraux ou pas du tout?
Ah, c'est des ouvertures beaucoup plus petites quand même.
Hein,
oui, c'est de l'ouverture plus petite. Les églises romanes, il y en a des magnifiques, mais c'est dans l'ensemble beaucoup plus sombre que le gothique.
Ok, donc là, l'objectif, c'était non seulement rapprocher de Dieu, machin et tout, mais en plus, c'était une façon de pouvoir diffuser vachement plus de choses avec les ouvertures, les vitraux.
Mais bien sûr, et puis de faire quelque chose de super lumineux, de coloré, parce que les vitraux, ils sont colorés. Ça se voit pas vraiment dans le cas de Notre-Dame de Paris.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Pour ceux qui
l'ont
vu,
très sombre quand même.
Voilà, parce que Notre-Dame de Paris, c'est quand même une des seules églises gothiques qui est archi sombre, parce que c'est une des premières et on maîtrise pas encore tout à fait. Voilà.
Plus aujourd'hui avec le trou.
Mais une percée lumineuse, pas mal.
Trop tôt, trop tôt.
Mais Voilà. Et donc, comment reconnaître une cathédrale gothique d'extérieur? Bah, en fait, c'est simple, c'est que les voûtes, elles sont brisées. Les arcs des voûtes sont brisés, c'est-à-dire ça fait pas un bel arc de cercle, c'est un peu pointu en son sommet. Et elles ont ce qu'on appelle une façade harmonique, c'est-à-dire ces deux tours asymétriques. D'ailleurs, les tours de Notre-Dame ne sont pas symétriques. Non, elles font pas la même taille. Mais c'est plus flagrant sur d'autres cathédrales.
Est-ce que c'était fait exprès ?
Oui, si, si, ça s'est fait exprès. C'est parce qu'il y a toujours une tour mâle et une tour femelle. Alors là, me demandez pas pourquoi, mais voilà, il y a une tour mâle, une tour femelle. Et il y a trois portails, donc trois grosses portes avec la centrale en général qui est plus grosse que les autres. Voilà, à partir du moment où vous avez ça,
Il
y a de grandes chances que vous soyez face à un truc gothique. Voilà. Donc voilà, bref, revenons-en à notre Maurice. Donc notre Maurice, pourquoi est-ce qu'il veut entreprendre un aussi gros chantier? Ben déjà parce que Paris, à cette époque-là, est en plein boom démographique. Elle va bientôt devenir la plus grande ville d'Occident. Et elle est forte de 50 000 habitants. Donc 50 000 habitants, ça fait trois fois la population de Pontarlier d'aujourd'hui. Et donc du coup, il y a plein de petites églises à Paris, mais elles sont pas suffisantes pour accueillir tous les fidèles. Hein. Rien que sur l'île de la Cité, il y a peut-être une dizaine de paroisses. Pour ceux qui sont déjà venus à Paris, l'île de la Cité, c'est pas énorme. Hein. Caser 10 paroisses
c'est
là-dessus, c'est pas bien grand. Et puis la moitié de l'île de la Cité était occupée par le palais des rois de France, qui est au niveau de l'actuel palais de justice. Donc voilà.
Bon, il manquait des hôpitaux aussi, mais on pouvait pas tout faire en même temps.
Et Maurice de Sully, il veut également faire ça pour afficher son pouvoir. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a des puissantes abbayes, très très riches, notamment l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui sont un peu là en mode « t'es un évêque et puis t'as des églises de merde ». Et lui, il s'est dit « ok, bah, je vais faire un gros truc ». Et puis aussi pour concurrencer les évêques qui, eux, ont déjà fait construire, ou sont en train de faire construire, des énormes cathédrales. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment pour en mettre plein la gueule à Sens, à Senlis, à Saint-Denis, etc.
C'était un concours de kiki, quoi.
Mais bien sûr, oui, c'est un concours de kiki, tout à fait. Pour information, j'ai oublié de vous le préciser, le gothique, le style gothique apparaît, et je dis bien apparaît parce que sinon les gens du sud ils vont dire « Ah bah nous aussi on en a du gothique dans le sud ». Oui, mais ça apparaît dans le nord de la France et en Île-de-France.
Ok.
Voilà, essentiellement. Donc oui, il y a du gothique, mais il est plus tardif dans le sud. Voilà.
Très bien, donc, alors calmez-vous.
Absolument, calmez-vous, même si vous n'avez rien dit, on se calme. Donc, en 1162, les fondations, les travaux pour les fondations débutent, et en mars ou avril 1163, on sait pas trop, le pape Alexandre III, Alexandre III, qui était de passage à Paris parce qu'il s'est fait chasser de Rome pour une sombre affaire de...
Le nul.
De choses, d'excommunication. Eh bien, de passage à Paris, il vient poser la première pierre de Notre-Dame, et ça veut pas aujourd'hui, hein, en présence de Maurice de Sully. Et du roi de France, voilà. Donc on prévoit un chantier de 60 ans qui va en réalité durer quasiment 200 ans.
100 ? Ah ouais ?
Ouais. Ouais bah
oui. C'était pas 107
Mais en fait, dans le fond, si on fait le calcul, c'est même quasiment impossible de dire combien de temps le chantier de Notre-Dame a duré, en fait, parce qu'elle a tout le temps été en chantier.
Voilà. Et puis 107 ans, c'était pas pour la guerre de 100 ans, plutôt ?
Oh.
Bon, je pense à l'expression. Mais le
gros de l'œuvre est réalisé en 100 ans.
Et du coup, si on est un peu coquin, est-ce que ça pourrait vouloir dire que les réparations en 5 ans, on se les met un peu dans le fondement?
Ouais. Pour bien faire les choses, 5 ans, c'est impossible.
Totalement.
Bon, on a des grues aujourd'hui. Mais...
Non, non, mais vous vous rendez pas compte. Enfin, ils se rendent pas compte, en tout cas, le travail que c'est.
De qui tu parles?
De Emmanu. Non, c'est énorme et je suis contre.
Très bien.
Non, franchement, c'est pas cool. C'est pas cool ce qu'il fait.
Non, mais ça, je suis d'accord avec toi.
Tous les bureaux d'études qui vont ramer derrière à bosser.
Bah, surtout que c'est pas le genre de travaux que tu vas appeler, quoi. Je rappelle.
Ah, bah oui, justement.
C'était quoi c'était en Italie, il me semble, le visage de Jésus qui avait été
rattrapé. La restauration.
Voilà, la restauration. La tout nana, de suite, tu le fais à l'arrache, ça rend moche, quoi.
On dirait un pancake. Voilà. Et tout écrasé.
Ça serait dommage qu'on ait un pancake avec la Tour Eiffel, quoi. La Tour Eiffel.
Ça veut pas aujourd'hui.
Non, ça veut pas.
Manger pizza, désolé.
Et donc les travaux débutent, mais très rapidement il y a un problème majeur auquel on n'avait pas spécialement pensé, c'est que les rues de la capitale, eh ben elles sont bien trop étroites. Ouais. Eh oui, pour faire acheminer jusqu'au chantier, eh bien les énormes troncs de chêne pour faire la charpente, les pierres, etc. Et en plus de ça, au Moyen-Âge, je vous rappelle que tout ce qui est eau usée, etc. On balance tout dans la rue. Donc le sol, c'est une énorme bouillasse. Donc en fait, on a les roues des charrettes qui s'embourbent.
Ah, et ça c'est la merde. À Pontarlier aujourd'hui, quoi.
Oui, tout à fait. On dirait Pontarlier, voilà. Donc ami Pontisalien, je n'ai rien dit.
Pontisalien.
Oui, je crois que c'est
on
ça.
On aura appris un truc.
Il me semble que c'est Pontisalien, ouais. Je crois. Ça se trouve, c'est pas ça.
Tu me dis que t'es de Pontarlier, Loïse. Hein,
Non, pas du tout. Je me sens pas offensée.
Donc, par conséquent, Maurice de Sully décide de faire percer face à Notre-Dame ce qu'on pourrait appeler une avenue pour l'époque. Il va faire percer la rue Neuve Notre-Dame, qui était une énorme avenue de 6 mètres de large. Et ça
c'est déjà pas mal.
C'est énorme. Et en fait, il va faire mettre sur les côtés de la rue des gargouilles, c'est des canaux d'évacuation des eaux en fait au sol, pour permettre que l'eau stagne pas et que ça fasse pas de la boue. Et donc du coup, ça a permis quand même au chantier Jean-Michel d'avancer super super
c'est
rapidement.
Ouf, c'est super malin. Enfin, c'est malin. Disons que c'est ouf que ce soit le chantier Notre-Dame qui a amené ce genre de
d'amélioration. Ah ben voilà, ça a permis d'améliorer mine de rien le centre de Paris. Et le chantier, il avance super vite. Et donc, 33 ans après la pose de la première pierre, quand Maurice de Sully meurt, il a vécu quand même assez vieux, l'animal, eh bien, les trois quarts de la nef de Notre-Dame de Paris sont achevés. Donc, ils ont carrément bien speedé. Et à sa mort, l'évêque, il lègue une grande partie de sa fortune pour financer les plaques de plomb pour faire la toiture. Donc, la toiture, elle était composée de 1320 plaques de plomb, soit le modeste poids de 210 000 kilos.
Ce que je veux dire, c'est pas turbo lourd, le plomb?
Si,
c'est pas dur à dire plein de fois rapidement, plaque de plomb.
Plaque de plomb. Voilà. Et le chantier de Notre-Dame de Paris, donc il a fallu environ 300 ouvriers, pas sur toute la durée du chantier, mais par jour en fait, quand les gens travaillaient, c'était 300. 300 ouvriers d'hommes et de femmes. Voilà, c'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais il y a énormément de femmes qui ont travaillé sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Elles, c'était beaucoup des femmes qui faisaient le mortier, qui faisaient le plâtre et qui aidaient à la conception des décors. Voilà. Donc on a utilisé les techniques les plus audacieuses de l'époque pour faire Notre-Dame de Paris, notamment la grande roue d'écureuil.
Oui, tout à fait.
Donc ça, c'est pour lever les pierres. Ouais, et donc c'était une roue de hamster géante. Voilà. Non, et on mettait des bonhommes qui couraient.
Ok, mais on mettait pas beaucoup d'écureuils.
800 écureuils dans la petite roue.
300 ouvriers, dont 280 écureuils. C'était ouf.
Mal et femelle.
Non, mais du coup, c'était des bonhommes. Alors, il y a des gravures de l'époque qui existent où on voit des hommes courir dans ces grosses roues de hamster. C'est assez marrant. Et si vous vous placez face à Notre-Dame, de pas trop loin, vous voyez facilement des gros trous rectangles qui sont les marques des échafaudages, en fait, qu'on a fait pour Notre-Dame de Paris, des échafaudages en bois. Vous les voyez super facilement. Il y en a absolument partout. Et en fait, ils étaient conservés au Moyen-Âge parce qu'on se disait, si on a besoin de refaire un échafaudage, on a déjà les trous. Voilà, exactement. On saura où les remettre. Voilà. Puis au final, ils ont jamais enlevé. Pourquoi pas? Donc, c'est un chantier qui est super complexe, qui est super délicat parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des murs super hauts et c'est des très grandes verrières. Le but du jeu, c'est vraiment d'enlever le maximum de pierres possible. De faire un genre de véranda. Voilà. Mais il faut maintenir la toiture qui est super lourde parce que je vous ai parlé du poids du plomb, mais il faut rajouter à ça, toute la charpente, voilà. La flèche aussi, enfin voilà, tout un tas de choses.
Mais la flèche, ça venait pas bien après?
Il y a eu deux flèches à Notre-Dame, mais il y en a eu une première d'origine. Ouais,
je savais pas.
Donc, on remplace les murs, du coup, par des énormes piliers massifs, mais ça suffit pas à porter tout le poids de la cathédrale. Et donc, en fait, à Notre-Dame, vous avez toute une structure autour de la cathédrale. Donc, vous avez des arcs-boutants avec des contreforts. Et en fait, c'est pas du gothique pour décorer, c'est vraiment pour tenir la cathédrale dans tous les sens, pour pas qu'elle se pète la gueule. Voilà, c'est une vraie utilité.
Donc, si vous revisitez, ne poussez pas les poutres. Hein.
Voilà, exactement, parce que ça permet de répartir au maximum tout le poids de Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc Notre-Dame de Paris, en termes de dimension, c'est assez hallucinant. Les tours font 69 mètres de haut. Voilà. Ouais. Feu la flèche. On faisait 90. Tours, vous avez le jeu de mots,
feu la flèche. Feu la flèche.
Voilà. Ouais, j'étais contente de la trouver.
Et les tours font 69 mètres, une des deux, en tout cas.
Oui, mais il n'y a pas un écart de ouf, hein.
Ok, bah entre les deux. C'est comme deux jambes qui font pas la même taille. Mais je demande.
Oui, voilà. Flèche 90, la façade, elle fait 40 mètres de long. Le transept 48, et toute la longueur totale, c'est 130 mètres. Voilà, donc c'est quand même un beau bébé. Oui. Et la hauteur de voûte à l'intérieur, la hauteur de plafond, c'est 35 mètres.
Donc si vous voulez reconstruire Notre-Dame dans votre jardin, Camille a toutes les mesures, n'hésitez pas.
Absolument. Et une fois qu'on l'a achevé, Notre-Dame, on a construit tout un ensemble. En fait, on va rajouter un cloître, on va la coller à l'hôtel Dieu. Enfin, Notre-Dame, il faut vous dire qu'après, c'était une ville dans la ville. Voilà, c'était vraiment encerclé de murailles. Et il y avait tout un édifice religieux encore derrière Notre-Dame. En quelque sorte, voilà, tout à fait. Et une fois terminée, elle pouvait accueillir plus de 8000 fidèles. Voilà. Donc, on pouvait se faire des grosses messes.
Pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'ai fait un mariage à Notre-Dame.
Sérieux?
Et c'était vachement cool.
Ah, la vache!
J'avais l'impression d'être comme dans les mariages royaux qu'on voit à la télé et tout. C'était assez ouf.
Il y avait Mr. Bean ou pas?
Non.
Non.
Non, désolé. Non, mais c'était extrêmement classe et c'est très touchant de faire une cérémonie là-dedans. Donc,
ouais, tu m'étonnes.
Voilà, c'est fait un fin de la petite histoire.
Non, mais c'est bien vrai.
On est tous contents.
Alors aujourd'hui, on râle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ah, mais moi, je suis très, très triste parce que Notre-Dame, mes enfants ou même moi quand je la reverrai, ben on la connaîtra plus comme elle était à son origine. Ben non, parce qu'on l'a jamais connue comme elle était à son origine en fait, de toute façon. Voilà, on va prendre un exemple.
Allez.
On va se mettre dans la peau de Mao. Donc Mao, la boulangère qui vendait ses miches sur le parvis en 1411.
D'accord.
Et notre Mao, elle voyage dans le temps. Et admettons qu'elle arrive en 2018, donc avant l'incendie.
Ouh, t'as commencé à écrire tes sujets avec Hicham, toi. Déjà, c'est pas clair.
J'y suis pour rien, ok.
Donc alors, Mao, elle a voyagé dans le temps.
Voilà, et elle arrive là, juste avant l'incendie d'il y a quelques jours. Et ben, elle serait super outrée parce que la cathédrale, elle a bien changé. Donc déjà, il faut vous dire que Notre-Dame de Paris, elle était peinte, intérieure comme extérieure.
Même l'extérieur.
Oui, même l'extérieur. Donc, pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, à cette époque-là, on a une haine de la pierre blanche. On n'aime pas ce qui est blanc, c'est pas beau.
Ah, voilà. Ça a bien changé aujourd'hui.
C'est pas aussi pour colorier ça avec des couleurs riches.
Si, on a, dans le cas de Notre-Dame, on a utilisé des pigments qui coûtaient très très cher, le bleu, le rouge et de la feuille d'or. Voilà. Donc c'était pour montrer la richesse de l'église.
Oh, bah ça va, tranquille.
Ouais, il y avait la feuille d'or sur la façade de Notre-Dame de Paris, quoi.
Boum. Ah oui, tu nous avais parlé aussi du. Une salle, c'était pas au Palais de Justice.
La Sainte-Chapelle.
La Sainte-Chapelle,
ouais,
voilà.
Qui est au Palais de Justice, tout à fait. Et également, en fait, peindre les façades des cathédrales, ça permet quand même de protéger un minimum le mur des infiltrations. Mmh. Et ça protège également la pierre du gel à l'hiver. En tout cas, c'est une couche qui permet de protéger un peu plus la pierre.
Quoi. Par contre, ça conduit pas l'électricité de ouf, l'or ?
Bah, au Moyen-Âge, je pense qu'on se pose pas trop la question.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
non, mais en cas d'orage. Parce que c'est une tour.
Bah, il y a la flèche. Bah ouais. La flèche sert à ça.
Bah oui, mais vu que le reste est parsemé de d'or, la flèche, elle attire la foudre, après elle le transmet.
Bah, quand il y a l'orage, tu touches pas la rampe et tu peux pas.
Non, je me pose une question.
Puis déjà, il y avait pas de rampe PMR à Notre-Dame à l'époque, donc c'est bon, personne, voilà, ça allait bien.
Pardon.
Bref.
Excuse-toi.
M'excuse.
Non. Et Notre-Dame, elle est devenue blanche parce que je sais plus si c'est au 17e ou au 18e siècle. On a trouvé ça super moche et donc on a frotté les murs avec de la chaux.
Un peu comme Michael Jackson.
Oh mon dieu, voilà. On l'a trouvé moche, donc en fait, on a enlevé la couleur. Et donc, si vous voulez effectivement vous faire une idée, faut aller visiter la Sainte-Chapelle, qui est en plus à 5 minutes à pied de Notre-Dame de Paris et qui a conservé toutes ses couleurs d'intérieur, enfin, qui ont été bien
très,
restaurées,
très
mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'intérieur d'église le plus beau de Paris, concrètement, voilà. Alors, notre Mao, admettons, parce qu'on est toujours avec elle, elle est super observatrice, tu vois, elle lève la tête. Alors, déjà, elle va se rendre compte que la flèche, effectivement, elle a changé, parce que la première flèche. La première flèche, en fait, elle s'est effondrée toute seule en 1792, du jure. C'est, la flèche, elle a dit j'en ai marre et voilà.
Okay.
Et ensuite, du coup, Notre-Dame, elle n'a pas eu de flèche pendant quasiment 100 ans et c'est Viollet-le-Duc qui a fait la flèche actuelle qui a pris feu. Donc la flèche qui prend feu, c'est sûr que symboliquement, c'était dur, mais c'était clairement pas la partie la plus intéressante de Notre-Dame qui a flambé, quoi. Voilà. Et notre Mao, elle verrait des formes assez étonnantes sur Notre-Dame, elle verrait des chimères. Et des gargouilles. Quelle est la différence entre
moi,
gargouilles
et chimères ?
Moi, je
sais, j'ai écouté les grosses têtes.
Ils en parlent dans les grosses têtes ?
D'accord. Ils en ont parlé avant-hier, c'est quoi les
gargouilles ? Ah merde !
Ouais.
Il y en a une qui a une utilité, l'autre non.
Une chimère, c'est mi-homme, mi. Ah non, ok.
C'est
non.
Animal, mi-lion, la chimère, il n'y a pas un truc comme ça ?
Alors, ça, c'est dans l'Antiquité, non, mais en termes d'architecture gothique, non.
Il y en a une qui a une utilité, on peut mettre des trucs dedans, en gros, et l'autre, c'est juste une statue.
Alors, la gargouille, ça vient. Oui.
Enfin, juste l'utilité. La gargouille, c'est pour faire passer l'eau.
Voilà. C'est pour éviter que l'eau coule le long de la pierre et que du coup, ça use la pierre à force.
C'est pas des égouts, là, comment ça s'appelle ?
C'est des canalisations.
Des gouttières.
Des gouttières. Et une chimère, c'est une gargouille bouchée. Où il n'y a rien qui rentre à l'intérieur, en fait.
C'est une sculpture, chimère. Et surtout, une chimère, ça ne date pas du Moyen-Âge, ça date du 19e siècle. Toutes les chimères qu'il y a sur Notre-Dame, elles datent de Viollet-le-Duc, qui les a rajoutées.
Okay.
Voilà. Mais les gargouilles, la gargouille, elle est inventée en 1220, à peu près. Voilà, la gargouille, ça date du Moyen-Âge.
Une gargouille est une chimère, mais une chimère n'est pas une gargouille. Ou l'inverse, je sais plus.
Hésite pas à faire des remarques tout aussi floues.
Et pour vous donner un exemple, la chimère la plus célèbre de Notre-Dame, c'est la Strige. Et la Strige, en fait, c'est le compagnon de Quasimodo dans le dessin animé de Walt Disney.
D'accord.
C'est celui qui a pas de jambes, qui se déplace. Enfin, je crois qu'ils ont tous pas de jambes, mais c'est celui qui parle tout le temps. Et bah, il existe vraiment cette représentation-là. Disney, ils sont inspirés d'une vraie chimère, et elle est sur Notre-Dame. Voilà.
Ok.
Voilà, tout simplement. Donc, allez, admettons, Mao, elle est un peu aventurière. Voilà, elle a écouté l'épisode de Juan et Ilias sur l'escalade. Elle se munit de cordes, d'un baudrier, et chuit, elle monte à l'assaut des tours.
Bon, voilà. Déjà, elle se prend deux balles direct, je pense.
Vigipirate. Voilà. Voilà. Donc, elle monte dans les tours. Et
bien joué.
Au sens littéral du terme.
Excellent.
Et même les cloches, en fait, elle les reconnaîtrait pas, les cloches de Notre-Dame. En supposant qu'elle les ait vues au
Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Parce que c'est au Moyen-Âge, elle faisait déjà de l'escalade.
Donc, les cloches de Notre-Dame de Paris, elles sont réparties aujourd'hui dans les deux tours. Mmh. Voilà, vous en avez dans chacune. La tour sud, donc quand vous êtes face à Notre-Dame, c'est celle qui est à droite. La tour sud, c'est celle qui contient les deux bourdons. Donc, vous avez le premier bourdon. Le premier bourdon, on va écouter le son du premier bourdon. Voilà, vous voyez, c'est un genre de glas. Il est très très grave. Le premier bourdon, il s'appelle Emmanuel.
Ah bah et d'ailleurs.
Mais oui, voilà.
D'ailleurs, il y a
oui, tu as raison.
Tu m'as dit que j'avais dit Emmanuel.
Oui, je l'ai réécouté. T'avais raison.
et donc c'est la plus grosse des cloches de Notre-Dame. Elle pèse 13 tonnes.
13 tonnes.
Pas mal.
Pas mal.
T'as encore écouté grosse tête.
Non, mais c'était mon sujet.
Tu l'avais dit, oui, c'est vrai.
Oui, je le savais très bien.
Et vous savez le truc qui est à l'intérieur qui sert à la faire sonner là, je sais pas comment.
Oui, alors ce que tu décris visuellement est assez dégoûtant, mais heureusement que vous avez pas l'image, hein, auditeur auditrice.
Mais je sais pas comment ça s'appelle, mais le grelot en gros.
Le grelot. Le marteau.
Et ben il pèse 500 kilos à lui tout seul.
Ah bah c'est des jolis grelots comme tu dis.
C'est du beau bébé.
Je voudrais pas être un slip de cloche.
Et donc. Le bourdon Emmanuel, donc c'est la plus grosse et c'est la plus vieille qui soit encore dans Notre-Dame, date du règne de Louis XIV du XVIIe siècle.
Pas mal.
Et il sonne rarement. Il sonne pour les grandes occasions, donc toutes les très grandes fêtes religieuses, la mort du pape, l'élection d'un pape. Souvent, il sonne pour les choses assez tristes.
Ah oui. Voilà. Bah, en même temps, les trucs graves, ouais, je comprends.
Voilà. Et il est pas tout seul dans la tour sud. Il est avec le deuxième bourdon de Notre-Dame. Il y a deux bourdons à Notre-Dame qui s'appelle Marie, qui a eu un beau bébé aussi, 6 tonnes, qui a été fondue, enfin refaite en 2012 et qui a sonné pour la première fois en mars 2013. Ouais, super récente. Et donc là, on va vous faire écouter les deux sons de Marie et d'Emmanuel en même temps. Qui est un son typique, moi je trouve, de Notre-Dame,
ah, oui, oui.
qu'on retrouve qu'à Notre-Dame de Paris. Ouais. Voilà.
Alors,
voilà.
Oui. On le reconnaît bien.
Ah ben si, si, si. Ah ça c'est, voilà, ça c'est Notre-Dame.
Et venu.
Donc voilà. Et dans la tour nord, eh bien vous avez les cloches entre guillemets lambda, les cloches de tous les jours. Elles sont 8. Elles pèsent toutes entre 1 et 3 tonnes. Elles datent toutes de 2012 en fait. Notre-Dame s'est réoffert des nouvelles cloches, voilà, il y a 5 ans.
Okay.
Et elles sont à usage quotidien et très rarement, mais vraiment peut-être 2 ou 3 fois par an, ils font la grande volée, c'est-à-dire qu'ils sonnent en même temps toutes les cloches plus les deux bourdons, et c'est un beau bordel. Et oui. C'est très bruyant sur le parvis oui, oui. dans ces cas-là.
On dirait du 16.
Pardon. Donc voilà, c'était la minute cloche.
J'ai où c'est un peu le zbeu.
La minute cloche.
En plus, enfin, ce genre de truc, tu peux juste les faire sonner, tu peux pas en jouer. Parce que c'est tellement gros et lourd, ça
ne peut pas s'arrêter. Ah bah oui, non, c'est c'est un énorme mécanisme. Bah aujourd'hui, c'est électrique en fait, mais c'est un énorme bordel, ouais, tout à fait. Et enfin, notre Mao, eh bien, comme je vous disais à la base, elle vendait ses miches de pain sur le parvis. Eh bien, parlons un petit peu du parvis de Notre-Dame. Celui d'aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le parvis original de Notre-Dame de Paris, étant donné que le parvis de Notre-Dame, il était
tout petit.
Ouais. Mais ouais, il était minuscule. Pour vous faire une idée, si vous allez sur le parvis actuel de Notre-Dame, vous allez voir qu'à un moment, devant la cathédrale, à quelques mètres, il y a des petits plots. Eh ben, ça délimite l'ancien parvis.
Ah.
Et c'est vraiment tout
petit.
C'est
tout petit, ouais.
Et au sol, vous pouvez voir le tracé de la rue Neuve Notre-Dame, en fait. Les gens font pas attention, mais sur le parvis, vous voyez toutes les anciennes rues du parvis qui sont tracées au sol.
Trop bien.
Donc, oui, c'est assez intéressant à voir.
Si vous voyez le Disney, c'est assez bien représenté.
Oui.
Du ciel, c'était vraiment minuscule avec les petites rues partout.
Si vous allez jouer aussi à Assassin's Creed.
Aussi.
C'est
très bien fait.
C'est vrai. Et le parvis, en plus d'être petit, il était toujours blindé de monde parce qu'il y avait marché. Comme je vous l'ai dit, Notre-Dame, les miches de pain de Mao. Il y avait Notre-Dame, elle a quasiment tout le temps été en chantier, donc en fait, il y avait tout le temps des artisans, des tailleurs de pierre, etc., qui étaient là pour des restaurations. Il y avait également l'échelle de justice qui a été mise au XIIe siècle et qui a été détruite à la Révolution. Donc c'est là que les condamnés venaient faire amende honorable avant qu'on les emmène se faire cramer en place de grève. Donc en fait, ils se présentaient devant Notre-Dame, cierge à la main, une chemise de bure, pieds nus, et puis ils disaient pardon, j'ai merdé.
Faire pénitence.
Faire pénitence.
Oui.
Okay. T'as fait un truc à te faire pardonner ou
Non.
Peut-être demain matin, il va se réveiller devant toi avec une chemise de bure. Je voudrais faire pétridance.
Oh mon Dieu. Et en plus de ça, il y avait également tout un tas d'élèves étant donné que il y avait des cours de catéchisme sur le parvis de Notre-Dame de Paris, étant donné que Notre-Dame a une façade, comme toutes les façades gothiques, une façade d'écriture sculpturale.
Ouais, ça devait être
C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'enseignement, comme on est sur une grande majorité de la population qui sait pas lire. C'est de l'enseignement, c'est l'histoire de la Bible,
c'est
l'histoire
une BD, quoi.
Essentiellement de la Vierge Marie, comme Notre-Dame est dédiée à la Vierge, sur les façades. Et vous avez notamment le portail central qui est mon préféré, qui est le portail du jugement dernier. Et vous voyez le réveil des morts, vous voyez le diable qui tient une balance, la pesée des âmes, avec ceux qui vont au paradis. Ah, ils sont contents, vous avez deux rois, ils essayent de pas aller faire peser l'âme, ils font la gueule et tout. Si regardez bien, ils font « Putain, merde, j'ai merdé.
Chaud. »
Fait chier. Et vous avez tous ceux qui vont en enfer, il y a une nana qui se fait bouffer par un monstre. Enfin, c'est vraiment une énorme BD et ça prévient de ce qui t'arrivera si tu respectes pas les règles de l'Église et de la religion catholique.
Enfin, il n'y avait pas une légende sur la porte ? Tu m'en avais raconté une
si,
fois.
Si, si, c'est oui. Ah oui, mais là, malheureusement, j'avais pas le temps.
Non,
mais voilà, ne me lancez pas. Mais si, si, tout à fait.
C'est ce que je me disais.
Ah, mais la façade de Notre-Dame, il y a
on t'enregistrera un épisode bonus, on balancera sur le
Ah, pour Halloween.
Non, mais effectivement, par exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un commentaire, un message ou autre, un truc spécial Notre-Dame, parce que je pense que Camille doit avoir 12 000 trucs à raconter. On peut très bien enregistrer un petit hors-série de...
Oui, que Camille ferait toute seule chez elle, par exemple.
Mais non, mais j'ai eu la chance de travailler beaucoup grâce à Notre-Dame de Paris quand j'étais guide. Et c'est vrai que je faisais beaucoup visiter la,
donc, si ça vous
le
chauffe,
bâtiment. Donc oui. Et en fait, vous savez, dans Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le lire, mais il y a un chapitre de Victor Hugo qui s'appelle « Ceci tuera cela ».
Mm-hmm. Non.
Qui est un des chapitres emblématiques de Notre-Dame de Paris. Et en fait, c'est pour... c'est en gros ceci tuera cela, c'est-à-dire que le livre va tuer les cathédrales, d'après Victor Hugo. Parce que Notre-Dame de Paris, ça se passe à l'époque où l'imprimerie a été inventée, quelques décennies auparavant, et donc le livre bon marché se multiplie, les gens apprennent de plus en plus
c'est
à lire, et donc on n'a plus besoin de...
Non,
on n'a plus besoin, non, de sculpter, en fait, l'histoire de la religion sur des façades d'église. Et donc c'est vrai qu'avec l'apparition du livre aussi, on perd un petit peu l'idée de décorer les églises à l'extérieur, parce qu'on en a de moins en moins besoin, voilà, et donc ça va disparaître. Donc voilà. Alors, petite conclusion, vous allez sans doute vous dire, mais nous, fanas du Moyen-Âge, qu'est-ce
nous
qu'on...
les Toulousains, encore
voilà, mais oui, nous les Toulousains, fanas du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on va venir visiter quand on ira à Paris s'il n'y a plus Notre-Dame pour le moment?
Ben, elle est toujours là, déjà.
Mais oui, non, mais pour le moment. Mais pour rentrer dedans, ça va prendre un peu de temps, quand même. Mais vous en faites pas les petits chats, maman, elle vous a fait une liste.
Ah,
mais oui. Mais oui.
Alors.
Donc déjà, moi, je vous conseille d'aller voir la crypte archéologique qui est sous le parvis de Notre-Dame, qui est clairement pas connue, mais qui est oufissime. Ça vous permet en fait de mieux comprendre toute la construction de Notre-Dame, et ça vous permet de voir tout ce qui est en dessous. Vous avez des trucs de l'époque de Lutèce, des maisons médiévales. C'est un vaste bordel. Ça a été découvert par hasard, je crois, dans les années 60 ou 70, quand ils ont voulu construire un parking Vinci, une connerie comme ça. Et ils ont dit, oh putain, René, arrête les travaux. Enfin, le mec était de Toulouse.
Parce que c'était une entreprise de Toulouse, bien sûr.
La communauté de l'Aveyron qui a bossé à Paris, là. C'est impressionnant.
Donc, voilà, il y a bien entendu la Sainte-Chapelle qui est sur l'île de la Cité également. Il y a la superbe Tour Saint-Jacques, il y a l'église Saint-Julien de Pauve, le collège des Bernardins, le musée de Cluny, qui est le musée du Moyen-Âge à Paris, la Tour de Jean sans peur, l'hôtel de Sens, le palais de la Cité, la sublimissime basilique de Saint-Denis. Enfin
respire,
bref, on
respire.
Ne manque pas de Moyen-Âge.
Ni d'adjectif.
Mais les gens ont tendance à penser que le Moyen-Âge à Paris, ça s'arrête à Notre-Dame, mais c'est grandement dommage. Notre-Dame, elle est très jolie, c'est un très beau symbole, mais il y a plein de bâtiments médiévaux à Paris qui sont pas plus beaux que Notre-Dame, mais, mais qui sont tout aussi beaux,
la
c'est clair.
La fac de Jussieu, par exemple.
Et hors de Paris, eh bien, en attendant, vous pouvez en profiter pour aller voir d'autres cathédrales gothiques, amis parisiens, voilà.
À
bah
Troyes.
Oui. Bah voilà, on a Chartres, Beauvais, Amiens, Strasbourg, Reims, Troyes, Rouen, enfin voilà, il y en a plein. Bref, vous avez de quoi occuper vos journées le temps que notre belle dame de Paris se refasse une beauté.
Ah, quel magnifique sujet, quelle magnifique conclusion aussi.
Bien.
Très bien.
Oui.
Et
jamais vu aussi... autant d'adjectifs qualificatifs en une seule phrase.
Le sublimissime sujet. Non, c'est vraiment trop cool. Et je me permettrai de rajouter qu'il y a aussi l'Hôtel Dieu juste à côté de Notre-Dame, qui est aussi un lieu magnifique.
C'est vrai.
Oui.
C'était un hôpital qui a été fermé, il me semble, où ils vont refaire autre chose dedans. Mais l'intérieur de l'Hôtel Dieu est somptueux, c'est ultra beau. Et voilà, malheureusement, il va se passer d'autres choses dedans. Mais voilà, il y a plein de petites choses cachées.
Très bien.
Bah, c'était très cool. Ça m'a effectivement donné des idées de trucs à visiter autres. Bah, de toute façon, je serais pas allé à Notre-Dame, mais d'autres trucs. Donc, merci beaucoup.
Mais de rien.
Et du coup, il me semble qu'on va passer au sujet d'Héloïse.
Tout à fait.
Quelqu'un qui mange pas de viande, c'est un végétarien.
Tu me prends profondément pour un con!
Non. Je l'ai fait manger végétarien. C'est plus sain comme mode de vie.
Vous savez, la torture, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Quand c'est fait par un pro, il n'y a pas une goutte de sang.
Welcome to the jungle. Magnifique jingle.
Gros génial. Game, merci. Gros game de jingle.
Génial. Je pensais pas que ce serait ça, mais c'est.
Mais juste
très, très
si
bien.
Tu peux m'expliquer pourquoi Welcome to the Jungle, parce que c'est elle qui m'a dit de le mettre.
Non, parce qu'en fait, bon, déjà, j'adore le groupe. Voilà, okay. J'adore.
Très bien. Voilà. Okay.
J'avais envie de prendre un strike parce que les guns sont très vénères sur les strikes.
Ah, j'allais dire.
Non, c'est et après tu as jungle, les animaux. Je me suis dit. Okay. Bon, tu m'as demandé ça, j'ai le premier truc qui m'est venu à l'esprit.
Ça marche, bah écoute.
Voilà.
Très bien.
Oui, donc je vais vous parler du végétarisme aujourd'hui. Donc avant tout, je ne suis pas diététicienne, nutritionniste ou quoi. Donc je n'ai aucune connaissance approfondie et validée par l'État ou quoi. C'est juste un parcours personnel. Donc voilà, si on m'écoute...
un témoignage.
Voilà, c'est un témoignage. Il faut le prendre tel quel. Je ne suis pas parole
d'évangile.
Voilà.
Excellent.
Donc tout a commencé. Moi, je viens d'une famille donc typique française, qui mange de la viande, qui mange de la blanquette, du bœuf bourguignon, de tout. Et j'ai jamais en fait fait le rapport entre la viande qui était dans mon assiette et les animaux. Mais j'ai toujours adoré les animaux. J'avais beaucoup d'animaux chez moi. J'avais des chiens, des chats, des trucs comme ça. Et j'ai grandi voilà sans me poser de questions en particulier. Et j'étais un jour en alternance en fait. Et c'est bête, mais ça a commencé par l'ennui. J'avais ma boss qui avait eu une maladie juste avant et qui parlait beaucoup de manger sans viande, de trucs naturels, de cosmétiques naturels. C'était en 2015. Et en fait, je me faisais vraiment chier à mon alternance et j'ai commencé à regarder parce que le vendredi après-midi à 2h, quand t'as plus rien à faire, tu vas sur Internet. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à aller sur des blogs qui parlaient d'abord de cosmétiques naturels et de ne pas tester sur les animaux, en fait, les cosmétiques. Il faut savoir qu'il y a des tests. Et moi, j'étais vraiment contre. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie... il y avait beaucoup de cosmétiques de grandes marques qui testaient encore sur les animaux et que la loi, en plus, était assez, assez insidieuse parce que ça prend plein de chemins détournés pour... ouais. C'est ça. Oui, en plus, tu vois, c'est déjà un peu, c'était des marques peut-être, ou je sais pas.
Oui, ça pose pas de problème.
Voilà, L'Oréal par exemple, voilà, c'est la big marque.
T'en cites trois minimum dans ton sujet.
Ouais. Non, mais voilà, tu vois, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai acheté du L'Oréal avant, enfin, je m'en foutais, tu vois. Et en fait, quand tu lisais les articles sur internet, tu te rends compte que c'est assez dégueulasse, qu'il y a des pratiques qui sont encore complètement moyenâgeuses limite pour du maquillage. Et je me suis dit, mais c'est tellement bête, tu te le mets sur le visage, toi, c'est de la crème. Et en fait, ça a commencé avec les cosmétiques. Et je lisais des articles qui disaient, oui, alors moi, je suis végane maintenant, je mange plus de viande, je mets plus de fourrure et tout. Et j'étais là, je mange plus de viande. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Ça m'intéresse pas trop. Et au fur et à mesure de la lecture, en fait, j'ai commencé à me poser des questions parce que je découvrais en fait l'horreur des abattoirs, des trucs comme ça, pour les poissons aussi, même si je mangeais pas trop de poissons parce que j'aime pas ça. Mais c'est vraiment, le bœuf, comment c'est fait, les poules.
Ouais, avec les poussins qui sont broyés.
C'est ça. Et en fait, c'est con, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le foie gras. Je savais pas du tout.
C'est pas ouf.
Non, mais tu vois, je savais vraiment pas comment on faisait et j'ai découvert ça et j'étais vraiment sur le cul, tu vois. Et en fait, j'en parlais autour de moi, je me disais, oui, tu savais pas.
Tu peux peut-être expliquer pour celles des gens qui savent.
Alors, le foie gras, en fait, donc c'est des oies qui sont engraissées. En fait, on leur ouvre le gosier et on les gave. Voilà. Et leur foie, donc, est gras parce qu'il est.
Cirrosé, quoi.
Voilà, il est cirrosé. Donc, en fait, c'est un foie malade qu'on mange déjà quand on mange du foie gras. Donc moi je le savais pas forcément, première nouvelle, j'adorais le foie gras sous toutes ses formes, j'étais là ah ouais bon c'est pas top. Et en fait au fur et à mesure c'était tout des portes, tu fais oh non c'est pas vrai, oh non c'est pas vrai, mais non mais même ça mais non c'est pas vrai. Et j'étais là, j'ai pas forcément envie de devenir végane parce que donc c'est très compliqué. Je pensais donc végane, je rappelle, c'est pas de produits animaux, pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage, pas de miel.
Tout ce qui est à base d'animaux. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ça va plus loin pour le mouvement vegan aussi, qui est un mouvement politique avant tout. C'est-à-dire que tu mets pas de fourrure, tu mets pas de cuir, pas de laine.
Rien qui est issu d'un animal. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ou de son travail, d'où le miel. C'est, parce que c'est considéré comme volé, mais c'est le tape des abeilles.
Ah, même le miel.
Ouais, mais c'est aussi pour d'autres raisons qui sont écologiques, parce que en fait, le mouvement vegan, végétarien, enfin végé, on va dire, c'est aussi en rapport avec l'écologie, tu vois, avec moins consommer ou mieux consommer. Et ça a beaucoup influencé ma façon d'être maintenant végétarienne, parce que je me considère pas comme végane, tu vois. Mais par exemple, j'achète plus de cuir ou j'achète plus de laine. Mais je mange encore du fromage ou des œufs, donc on peut se dire c'est pas très en raccord, tu vois, avec ce que je suis en train de vous raconter. Et
après, tout n'est pas ni tout noir ou tout blanc. On peut y aller par étapes.
Voilà. Et donc, au début, tu vois, je me suis dit, bon, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne, en fait, de manger sans viande. Donc, parce que sans poisson, voilà, j'en mangeais pas. Et bah, c'était assez compliqué. Donc, j'habitais encore à Paris et j'adore aller au resto. Et franchement, tu vas au resto à Paris, t'as quoi dans la brasserie du coin? T'as le rum steak, ouais, t'as le pavé de saumon. En fait, t'as aucune option. Donc, j'étais là, bon, bah, je mange le poulet. En plus, je préférais le poulet à la viande rouge. Donc, tu sais, je me posais pas la question. Moi, mon burger à McDo, tu vois, c'était le CBO, quoi, tu vois, j'y allais.
Encore qu'on a de la chance parce qu'on parle d'une brasserie parisienne, mais des endroits où c'est beaucoup plus compliqué encore.
C'est ça. Ah oui, non, clairement, clairement. Et ça a beaucoup bougé à Paris, tu vois, depuis 2015, clairement. Enfin, là, c'est le jour et la nuit. Hein.
Ça, si je dis pas de bêtises, c'était déjà il y a 5-6 ans.
Ouais, c'était en 2005, donc 4 ans. Ça. Et
c'est pareil.
2015.
Ouais. Mais non, mais c'est vrai que ça avait beaucoup changé, tu vois, c'était le début. Et j'ai commencé en fait à me faire un petit défi personnel sans le dire à mon entourage, genre allez, je vais tester, tu vois, je vais juste réduire pour voir. Il y avait l'impact écologique, il y avait l'impact de la santé, mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment au niveau de la compassion. En fait, je voulais pas manger un animal mort. Je pouvais pas.
Tu préfères vivant, pardon.
Exactement, oui. Non, mais voilà, je voulais pas manger de cadavres.
Et tu commençais par réduire genre plusieurs fois, un certain nombre de fois par semaine.
Exactement, okay. Ouais, sans me forcer. Parce que encore une fois, je suis pas dans la radicalité. Je voyais des vidéos de la L214, des trucs comme ça, mais en fait, ça me choquait pas.
Parce L214.
C'est l'association, c'est une très grande association hyper connue,
c'est
celle
qui
fait,
sort toutes les vidéos, toutes les vidéos,
c'est ça,
les abattoirs, tout ça.
Bah, pardon, je connais pas.
Bah, les poussins, tu vois, c'est grâce à la L214 que tu le sais.
Oui, si je dis pas de bêtises, ils font des entre guillemets des commandos pour rentrer dans les exploitations animales la nuit pour prendre des images ou.
Ok, mais j'avais jamais entendu leur nom. C'est vous?
Okay. Bah ouais, ou les abattoirs à l'abattoir d'Alès, tu vois, c'est la L214 qui a montré les images. Et ce genre d'images qui commençaient à venir à l'époque, moi je les regardais sur YouTube, tu vois, et c'est bête, mais ça me touche pas parce que moi c'est un film, je me dis pas que c'est vrai, c'est pas en face de moi. Donc j'étais pas encore dans le tournant, ouais j'y vais, mais je testais un peu. Et ce qui a été le déclic, c'est que j'ai acheté un livre qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» d'un auteur américain, parce qu'en Amérique, oui.
Un titre pas du tout prosélyte, alors pas du tout. J'imagine que la réponse est oui, sans aucun doute.
Oui, évidemment. Oui, et plutôt du fois qu'une.
Reprenez-en un petit hamburger Rossini, là.
Oui, voilà. Et en fait, tu vois, t'as tendance à dire, mais l'Amérique, de toute façon, c'est des gros lards, tu vois, ils mangent n'importe comment, la France, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, c'est que des témoignages... d'exploitations agricoles qui font des milliers d'hectares. Mais en fait, c'est assez horrible. Mais ce que j'ai compris, ce qu'il explique, c'est que la nourriture, la viande, c'est avant tout social. Ça crée du lien social. Mmh. Et que quand tu te coupes de ça, tu as la jolie chame qui fronce ses sourcils.
Ouais, je comprends pas.
En gros, la viande, c'est social aussi, tu vois. Ça, enfin, le repas, c'est culturel et social. Et tout à l'heure, on a mangé des pizzas. Mmh. On s'est recueillis autour d'un repas, un plat.
Et quand pas forcément la viande, justement.
Non,
ça en fait partie un petit peu.
Petit bol de saucisson avec la bière.
Et vu qu'en France, c'est considéré comme une matière noble, entre guillemets, c'est ce que tu vas valoriser dans le plat très souvent. Genre, t'as une viande de bonne qualité, etc. Tu te fais une bonne côte de bœuf à plusieurs et tout. Et la pizza, c'est pareil, c'est souvent un truc assez convivial, assez détente. Mmh. Alors que les brocolis, jusque-là, on n'a jamais genre « Oh, j'ai 2 petits kilos de brocolis, si vous voulez. »
Qui prend le dernier brocoli? Non, vas-y.
Alors que j'ai déjà entendu des potes genre « Ah bah tiens, j'ai trouvé ça à la boucherie, viens, on fait ça à la maison. Mmh. » Et t'as rarement ça avec les carottes, quoi.
C'est vrai.
Oui, c'est ça, le bon pavé de rumsteak, c'est un bon truc. Et que donc, ce mec-là, il est juif, je suis désolée, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est très connu. Et il disait, voilà, dans ma famille, en fait, j'étais des végétariens parce que donc c'était un journaliste, il a découvert l'enfer des abattoirs, blablabla. Et en fait, c'était un gros choc culturel avec sa grand-mère qui voulait lui faire plaisir en lui donnant ce bon plat de viande, quoi. Il disait, mais non, mais mange, mange. Et elle comprenait pas que lui dise non. Parce que...
Mange, mon fils, mange.
Mais oui, c'est ça, tu vois, c'est pour elle, c'est normal, elle vient d'une autre époque, elle a connu la guerre. Mmh. Tu vois, c'est différent par rapport à là, c'était il y a plus de 20 ans qu'il a écrit ce livre. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai eu le déclic. Et j'avais lu beaucoup de témoignages qui disaient aussi, voilà, je l'ai lu, j'ai eu le déclic. Et moi, c'est parce qu'en fait, j'ai eu les images mentales dans la tête. Mmh. Tu lis et c'est horrible.
Ah putain, c'est un gros bouquin ou...
Non, il est assez court. Okay. Je voulais l'amener et j'ai oublié pour vous le montrer. Même
oui, il est facile à trouver, c'est un gros best-seller.
Ouais, c'est pas un très c'est gros ça. Bouquin. Non, il doit faire 200 pages, franchement, ouais. Il se lit très facilement.
C'est un manifesto, en gros, j'arrive pas à parler. C'est un genre de manifesto.
Ouais, c'est ça. Et il t'explique un peu, donc voilà, donc cette partie culturelle qui m'a vraiment marquée en fait, parce que je comprenais toujours pas pourquoi fallait que j'arrête, mis à part pour la question éthique qui était quand même importante pour moi, mais que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à comprendre, à expliquer aux gens. Et en fait, ouais, ce truc de lien culturel et social, c'est très bien expliqué dans le livre. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, mais c'est pour ça, en fait, que c'est si compliqué pour les gens de renoncer, entre guillemets, aux produits animaux. Surtout à la viande et au poisson.
Mais surtout, enfin, je sais que c'est le cas pour la France. Pour les États-Unis, j'ai pas vraiment l'exemple. Mais oui, pour la France, c'est très, 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 très traditionnel. Putain, j'ai vraiment des problèmes.
Aujourd'hui, c'est
plus cher. Je fais un AVC. Voilà. Non, par exemple, après-guerre, on avait les tickets de rationnement pendant la guerre. La viande était extrêmement chère. Donc, du coup, c'est sûr que pour des grands-parents, ça devient compliqué de comprendre pourquoi tu veux pas manger de la viande. Contrairement à l'Inde, par exemple, où je crois qu'il y a plus de 30% de la population qui est végétarienne.
En France, entre 5 et 7%, je crois, si je dis pas de bêtises.
Les Indiens, c'est parce qu'ils vénèrent la vache.
Non, il n'y a pas que ça.
Il y a des animaux que la vache.
T'as des communautés végétariennes, en fait, en Inde. T'as un principe qui est dans l'hindouisme, c'est l'ahimsa. J'ai mes notes. Et en fait, ça veut dire que tu ne feras pas de mal à autrui. L'ahimsa, c'est du sanskrit. Okay. Ça veut dire techniquement not to injure, ne pas faire de mal. Voilà. Okay. Donc, tu ne fais pas de mal à ton égal, ton conjoint, tout ce que tu veux. Et tu ne manges pas d'animaux parce qu'ils sont censés être ton égal.
D'accord, ok.
Mais
c'est beau comme principe.
Il y a aussi l'histoire de réincarnation aussi.
Ouais, aussi, exactement.
Parce que ça pourrait être toi plus tard. Voilà.
Tu te manges pas.
Ok.
Non, mais oui, voilà, c'est ça l'idée. Et c'est marrant que tu parles de rationnement et tout ça parce que quand on parle de végétarisme ou de véganisme, on pense souvent tu manges pas de viande et les protéines alors.
Il y en a dans d'autres.
C'est ça, mais sens. Vous savez d'où ça vient en fait cette histoire de protéines?
Non.
Bah en fait, donc pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, au moment du rationnement, on n'avait plus beaucoup accès à la viande. Et
c'est ce que tu disais, Camille, je crois.
Tant de protéines par personne.
Ouais,
c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Okay.
C'était en protéines, c'était pas en calories? C'était vraiment en protéines?
C'était en calories, je crois.
Calories,
ouais, il me semble que. Mais après, il y en avait peut-être en protéines. Hein,
oui, il devait y avoir des tickets protéines.
Voilà, c'est ça. Donc,
oui, t'avais des tickets viande, des tickets lait, tout ça.
Ouais, tes tickets œufs, t'avais ça. Et en fait, on a été tellement traumatisés par cet épisode de guerre qu'après. Il y a eu, en fait, j'ai regardé un documentaire où tu voyais des images d'époque, c'est-à-dire années 50, tu vois, je pense, où tu avais des pubs à la télé en France, en Amérique. Oui, mangez vos protéines, des produits laitiers, machin, pour bien grandir, parce que les enfants, il y avait beaucoup de déficiences, voilà, en protéines, donc ça fait des problèmes pour, des carences pour grandir et tout ça. Donc, on nous a rentré dans la tête, il faut des protéines. Mmh. Sauf qu'en fait, il en faut pas tellement que ça, des protéines, parce qu'on n'est pas des nomades, enfin, on n'est plus, on est des sédentaires. Et sauf si on fait de la muscu, tu vois, genre, je t'entraîne 5 fois par jour, là, t'en auras besoin. Mais nous, techniquement.
Du sport, de manière générale, parce que la protéine, effectivement, vont aider à, on va dire, former tes cellules musculaires.
Exactement.
Mais genre, ouais, si tu fais du sport 2 fois par semaine, il y a moyen que tu bouffes un peu plus.
Mm-mm.
Mais pareil, si je dis pas de bêtises, ton rationnement alimentaire, enfin, nutritif, les caps de protéines, machin et tout, il y a des moyennes, mais après, ça va dépendre de ton activité physique, de ton poids, de ta...
Ouais, puis de ton sexe aussi, ce que t'es une fille ou un mec, tu vois, ça va dépendre.
De ton métabolisme,
ouais. Exactement, ouais. C'est assez... c'est vraiment du cas par cas.
Mmh.
Et donc ça, voilà, c'est important, c'est un truc qui revient assez souvent. Donc, j'ai commencé à m'y mettre, et en fait, ça n'a pas été très très dur, parce que je cuisinais beaucoup chez moi, donc c'est facile, tu fais ton marché, tu te renseignes, t'as des chaînes YouTube. Tu vois, c'était en 2016, où je me suis dit, je me donne un an, pour faire ma transition entre guillemets et sans me presser, tu vois. Si je voulais remanger un cheeseburger, franchement,
t'as commencé, enfin, t'étais flexitarienne en gros.
Exactement, voilà, on peut dire ça. J'étais flexitarienne. Le véganisme, j'étais toujours pas là-dedans parce que j'aimais quand même le fromage. Pas tous les fromages, tu vois. Je suis pas la française typique qui aime le camembert, tu vois. Ça me dégoûte, mais. Tu vois, je suis désolée.
Ah non, mais le camembert n'est pas franc-comtois et de deux, je n'aime pas le camembert non plus. Et Louise
a regardé Camille avec un air désolé, genre.
Ouais. Non.
Non, mais.
T'aimes le comté
Ouais, mais en fait.
Voilà, les copines, c'est bon.
J'aime pas les fromages à pâte molle. Je trouve ça dégueulasse.
C'est pas grave.
Je crois qu'on dérive un petit peu.
Oui. Mais voilà, donc ce genre de truc, tu vois, je sais plus ce que je disais.
Tu t'es autorisée quand même.
Voilà, des écarts entre guillemets. Et quand tu lis, t'as des personnes, non, moi j'ai changé du jour au lendemain, plus rien du tout. Moi non, tu vois, c'est pas comme ça, je peux pas fonctionner comme ça, j'ai besoin d'y réfléchir.
Chacun a sa manière de...
C'est ça.
C'est comme ceux qui arrêtent la clope, il y en a qui arrêtent d'un coup, il y en a qui baissent, enfin voilà.
Je pense que c'est comme ça, tu vois, je vois un peu, enfin j'ai jamais fumé de ma vie, mais je pense que arrêter la viande entre de très gros guillemets, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est, tu te décides, t'as une raison, Moi, c'était vraiment éthique, hein, pas du tout écologique ou de la santé. Après, ça s'entremêle, donc c'est différent. Et en fait, en un an, voire même beaucoup moins, je suis devenue végétarienne à temps plein. Il faut savoir que...
T'as des RTT ou c'est...
Alors, tous les mois, j'ai un jour de McDo.
Et... Voilà, j'ai un jour de carence par mois. Et il faut savoir que voilà, quand tu deviens végétarien ou vegan, il y a une vitamine qui est très importante, c'est la B12. Donc il faut absolument prendre des compléments alimentaires. En fait, la vitamine B, elle t'aide à avoir un bon développement de tes neurones. Donc on en a en fait une certaine dose, mais si tu la dépasses, en fait, tu deviens un légume.
J'en ai entendu parler très récemment par une pote qui est végane justement et qui a eu une carence en B12.
Ah ouais.
En fait, elle s'en est aperçue parce qu'elle avait des troubles de la mémoire.
Ouais, exactement.
Elle oubliait des choses, etc. Ah, elle s'est dit putain, c'est chelou. Et son médecin lui a demandé. En fait, elle a pris des compléments alimentaires et ça allait beaucoup mieux. Mais effectivement, ça lui a fait bizarre parce qu'elle avait genre des gros blackouts alors qu'elle se torpillait pas, quoi. Donc,
Ouais, non, c'est ça. C'est un truc hyper important. Et même, en fait, les animaux, ils mangent de l'herbe. Il y a de la B12, mais sauf que c'est censé être synthétisé très mal. Et ils ont découvert en 48 qu'on pouvait recréer cette molécule. Donc, depuis, en fait, tu peux avoir de la B12 et donc tu peux être végétarien sans avoir de carence sur cette vitamine. Qui est donc très importante pour le développement, et si tu l'as pas, tu peux finir clairement très mal comme ta pote, ou enfin ça peut aller encore pire, quoi.
Okay.
C'est hyper important. Donc j'ai commencé à me supplémenter parce que ça c'était vraiment un truc que je voulais pas transiger.
Et tu t'es fait accompagner pour ça ou tu t'es informée par toi-même?
Du tout, non, je me suis informée par moi-même. J'ai acheté des livres de cuisine, j'adore cuisiner, donc c'était un peu chiant. Du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, et en même temps il y avait des nouvelles façons de faire, et en fait c'est assez simple quand tu regardes le ratio de ce que tu dois avoir dans ton plat chaque jour. C'est légumineuses, céréales pour le protéines, avec d'autres vitamines et tout ça. Une partie de légumes, cuits ou pas. Et après, tu peux avoir du tofu dans tes protéines et tout ça. Et un peu de cru. Non, mais le tofu,
vous
c'est
êtes
bien
un
cuisiné,
gros
c'est
cliché,
bon.
Monsieur.
C'est pas bon.
Mais si, quand c'est bien cuisiné, c'est
en
bon.
En fait, le tofu, c'est pas un goût, en fait. C'est un support auquel tu donnes un goût.
C'est ça.
Ouais. Ok.
Voilà. C'est comme un poisson blanc et certains poissons blancs qui ont pas de goût. C'est la manière dont tu le cuisines qui fait
c'est
que
c'est comme le chou de Bruxelles. J'aime pas.
Ok. J'entends.
Merde.
Il n'en a pas mangé depuis 17 ans, mais il n'aime pas.
Il a une tête trop vénère en disant ça. Genre, ah oui. Ok. Donc, on excuse-moi. A noté pas de chou de Bruxelles.
Ouais. Je t'en ferai pas. Ça okay, marche.
Cool.
Et oui, voilà. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, vu que c'était un sujet qui m'intéressait, c'était tous les jours, j'apprenais des choses, je regardais des chaînes YouTube. Il y avait un podcast d'ailleurs, enfin, qui s'appelle Les Carencés.
Oui,
c'est des,
j'ai écouté un peu.
Il est super sympa, les mecs sont vraiment très drôles. Et voilà, ça t'explique plus des news du monde animal, entre guillemets.
Tu fais des gros air quotes depuis
tout à l'heure. Ouais,
non, mais c'est rigolo.
Thomas?
Comment?
Thomas air quotes.
Ah, on le salue d'ailleurs, mais non.
Bonjour.
Pardon.
Et donc voilà, c'est un podcast super intéressant qui peut aider les gens, qui fait un peu comme vous, voilà, qui vulgarise le véganisme, tout comme ça. Donc j'ai commencé en fait en m'éduquant toute seule, tu vois. J'ai pas été voir de médecin, j'ai pas été voir de nutritionniste, et jusqu'ici ça va. J'ai fait des analyses et ça va. Et juste je bois plus de lait de vache animal. J'essaie de boire que du lait végétal, puisque j'aime pas en fait le lait normal.
Ah non, c'est vraiment pas bon.
Ouais,
oui, bah, chacun son truc. Moi, j'aime bien ça. Mmh.
Mais non, mais l'idée de boire un liquide corporel, moi, m'a toujours dérangée depuis que je suis toute petite.
Genre,
on rembobine cette phrase et tu ne la dis plus jamais.
Tu tends une perche de l'espace, on va même pas la prendre. Même pas. Tu rêves.
Non.
Passons à autre chose.
Ceci dit, ça fait un petit tremplin sur un truc intéressant qui s'appelle la dissonance cognitive.
Oui, mais qui est humaine, malheureusement.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça aussi que...
Mais vas-y, tu veux expliquer.
Ouais rapidement, parce que c'est inhérent au courant VG. Donc, c'est en fait, le cerveau fait la dissociation entre, donc là pour le véganisme, la viande que tu as dans ton assiette et le petit mouton que tu vas avoir à côté de toi. En fait, ton cerveau, il va, quand c'est trop dur à prendre pour toi, tu vois, c'est un peu comme des chocs après la guerre.
Exactement.
Il va faire un blackout. Et il va se dire, mais non, il n'y a pas de rapport, en fait, entre le rhum steak, là, et le veau, le truc que t'as. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, en fait, à arrêter, parce que tu t'inventes des excuses toi-même. Si tu veux, t'as plein d'études qui ont été faites par rapport à ça. C'est pareil pour la cigarette, tu vois. Tu vois le petit enfant qui fume des clopes je sais pas où, tu vois. Et en fait, tu sais que ça tue, tu vois. Et toi, tu sais quand tu fumes que ça tue, que ça fait tes poumons, mais tu le fais quand même. Dissonance cognitive.
Mais il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée, c'était que Victor Toyon avait dit, je sais pas si tu la connais, qui fait le podcast Les couilles sur la table.
Ah, si, oui.
Qu'on avait invité, qui est adorable et brillante.
Coucou.
Et à une conférence sur, féministe et masculinité, je crois. Elle avait elle avait expliqué que certaines personnes lui ont rejeté une certaine réalité parce que, enfin, certains hommes quand on parle de féminisme et de patriarcat, parce qu'en fait, c'est le fait de l'accepter, c'est le prendre en compte et comprendre qu'on est une partie du problème, qu'on le veuille ou non, malheureusement, parce que vu que c'est systémique, même si t'es quelqu'un de très gentil, bah tu peux faire partie du problème quand même. Et donc en fait, il y a des blocages qui sont très francs, très nets, et donc il y a des réactions qui sont parfois très violentes. Parce que ça fait un poids pour certaines personnes qui est trop dur à endosser, à accepter, et elles n'arrivent pas à digérer le truc, donc elles préfèrent tout remballer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, genre même si tu leur montres des petits poussins qui se font broyer, qui vont dire non, mais c'est faux, ça c'est un montage ou machin, parce que la réalité serait trop dure à accepter.
Exactement.
Et c'est purement humain, mais parce que c'est un instinct de protection, en fait.
Oui,
parce
que
ces personnes pourraient être brisées intérieurement et se dire. Enfin, tu vois, je digresse vite fait sur la société.
Ça se voit.
Mais en fait, quand on présente un problème auquel on voit pas de solution évidente ou facile à prendre en main, on va dire, on panique, on a un instinct de panique. Donc c'est pour ça que ne remontez jamais un problème qui est trop dur à encaisser, parce que la personne va juste soit vous mettre une droite, soit se barrer en courant. Voilà. C'est fini, c'est merci pour moi.
Oui, non, mais c'est ça, t'as totalement expliqué. Donc c'est pour ça que quand tu parles, par exemple, à des gens qui mangent de la viande, qui mangent du poisson, tu peux avoir des réactions très violentes, en fait, parce que c'est eux qui se sentent agressés, alors que t'as rien fait, tu vois. Genre, moi, on me dit, bon, tu viens manger et tout, mais t'inquiète, je mange pas de viande et de poisson, tu le sais. Et il fait, ah oui, non, mais moi aussi, t'inquiète, hein, j'en mange qu'une seule par semaine, Et en fait, les gens, tu sais, ils agissent directement en défense, alors que je leur ai pas dit, alors, t'as mangé de la viande cette semaine. J'ai juste dit, je n'en mange pas. Non, mais moi, j'en mange pas. Et
c'est vrai, c'est assez drôle, l'histoire, Héloïse et moi, on est amis depuis quasiment 10 ans maintenant.
Ouais.
T'en passe vite. Oui. Et quand tu m'as annoncé ça, j'ai eu un peu cette façon d'agir où quand je t'invitais à dîner, je disais ouais mais t'inquiète pas, enfin il y aura des plats VG si tu veux. Et du coup, oui, je comprends.
Et je me demande dans quelle mesure socialement ça se passe aussi dans l'autre sens, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi des personnes qui deviennent végétariennes ou véganes et qui se pense en odeur de sainteté, on va dire, et aussi un comportement différent à partir de ce moment-là. Je sais que j'ai pu observer, parce que moi, je m'en fous, tu vois, mais je cuisine plus souvent pour des potes végétariens que l'inverse, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des changements de comportement aussi chez des personnes qui devenaient végétariennes et qui détenaient la vérité, entre guillemets. C'est horrible de dire ça, mais parce que moi, je suis assez d'accord avec ça, finalement. Mais il y a plein de canaux sociaux qui se déclenchent à partir de ça, et c'est assez marrant.
Bah, pour certains, c'est toi, Satan, parce que tu manges de la viande, et il faut que tu prennes conscience que c'est pas bien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rencontré des personnes végétariennes qui te font culpabiliser de ouf si devant eux tu vas prendre une rondelle de saucisson, mais vraiment de façon parfois assez virulente.
Je suis désolé, enfin voilà, il y a des cons partout, il y a bien des gens, des végétariens qui attaquent des boucheries
parce que
c'est une boucherie.
Oui, il y a des cons partout.
Là, vraiment, on arrive
Et il y a quelques assos qui sont très chouettes. Enfin, en tout cas, il y a un gros volet pédagogique qui est super intéressant parce que comme tu le disais, il y a plein d'actions qu'on peut mener pour commencer à y aller pas à pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut devenir végétarien, végétarienne, et donc ça peut toucher plein de personnes différentes. Et j'avais travaillé en janvier sur un gros programme pédagogique qui avait pour sujet l'écologie. On avait plusieurs invités, dont une personne de Edeni Social Club. Je crois que c'est ça. Edeni Social Club, une association qui fait de la pédagogie par rapport à toutes ces problématiques écologiques, VG, etc. Et j'avais déjeuné avec elle et son discours était super intéressant. Parce que justement, elle expliquait qu'elle était jamais dans s'imposer, dans machin et tout. Enfin, elle trouvait toujours des solutions. Et elle avait une approche de la chose qui était, très intelligente, en fait. Elle, jamais en frontal et sans que ce soit insidieux, mais toujours très subtil. Et je trouve que c'est la meilleure façon de parler de ce genre de choses. Qu'on soit, entre guillemets, omnivore ou végé ou autre.
Non, carrément. Bah oui, voilà, c'est l'approche. Enfin, je ne fais pas de remarques, voilà, mais si on me pose des questions, ça passe mieux, le message passe mieux, en fait. Et j'ai des amis, voilà, qui ont fait plus de produits de beauté, cruelty free, voilà, pas testé sur les animaux, manger plus de trucs végétariens, qui me proposent eux-mêmes. Donc, en fait, je pense que, il faut pas essayer de persuader, mais en parler calmement. Et voilà, en fait, je pense que ça fera son petit bonhomme de chemin au bout d'un moment.
Cool.
Voilà.
Merci, c'était très intéressant.
Ah,
merci
beaucoup.
Faudra nous dire d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, c'est pas la première fois qu'on a un sujet qui tourne au débat plus ou moins plutôt que sujet didactique. Et si c'est quelque chose que vous aimez bien, faut nous le dire.
Parce tout à
que
fait.
C'est agréable pour nous aussi de
puis,
pouvoir.
Et vu que vous pouvez pas nous arrêter sur le coup, dites-le nous après.
Voilà.
Bien. Mais c'est super cool, en tout cas, merci beaucoup, et je chercherai le bouquin dont tu nous as parlé.
Ok, cool.
Je suis pas du tout végé, mais ouais, je suis curieux de découvrir des choses.
Et encore une fois, comme l'a précisé Louise, elle est pas diététicienne non plus. On n'est pas rentré en détail là-dedans, mais si jamais un diététicien veut venir nous parler de ces sujets-là,
super porte
est grande ouverte.
Ouais. Grave.
Est-ce qu'on passerait pas, du coup, à toi, patron?
Un petit pourquoi.
Allez, tout petit.
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Alors, pourquoi, bon Dieu?
Pourquoi, quoi?
Ben pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi être si pompu?
Vous savez très bien pourquoi!
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a bam 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 et tac.
Il est si long, ce jingle.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors moi, j'ai un pourquoi et demi, on va dire. les deux sont liés. À la base, je voulais vous parler des mécanismes de l'équilibre. Comment ça se passait? Qu'est-ce qui faisait qu'on tenait en équilibre? Et du coup, je me suis dit, je pourrais vous proposer le pourquoi, qui est un peu lié de pourquoi on se pète la gueule quand on est sous. Parce que ce soir, on va fêter les deux ans de pardon. Comme ça, vous...
Tu sais déjà ce qui va t'arriver. Et t'as pas envie de te demander pourquoi. Soyons quand réalistes. Tu seras au sol, par terre.
Voilà. Est-ce que vous savez déjà?
Parce que quand on est sous, on n'est pas clair dans la tête. Enfin, il y a un truc qui joue, qui on n'estime pas les distances de la bonne manière.
C'est un peu plus
l'inhibition des sens.
Parce que la terre est basse.
vous êtes toujours toulousaine.
Non, mais même.
Elle aurait carré jamais trop.
Non, ça c'est Marseille plutôt. Pardon.
Alors, t'avais une proposition
Non, juste au niveau de l'inhibition des sens.
Vu qu'on est inhibé, on se dit putain, j'ai jamais le droit de me péter à la gueule. Maintenant, je le fais. Je suis un bonhomme.
Non, mais pour moi, c'est vraiment une histoire de distance. Quand t'es sous, tu...
Non, mais quand je dis sous, c'est pas sous la table.
Non, mais ça houle. Quand t'es ça houle.
Non, c'est pas vraiment ça. Héloïse, est-ce que t'as une...
Oreille interne?
Oui, ah, putain, enfin!
Hey.
Alors, heureusement que t'es là. Donc, il y a de l'oreille.
Ça, c'est pas que quand t'es sous, hein. C'est quand tu te pètes la gueule, généralement, c'est un problème d'oreille interne.
Bah, non, justement.
Que tu sois sous ou pas.
Donc, partons déjà du mécanisme, de trucs qui se passent dans l'oreille interne. Après, je vous parlerai, très rapidement de ce qui se passe, de pourquoi on réintient l'équilibre. Donc, l'oreille interne, c'est effectivement un petit truc qu'il y a dans notre cerveau. C'est pas vraiment une oreille, mais c'est pas très long, on va dire. Le fonctionnement est très simple. C'est un organe où il va y avoir des petits cils. Et dedans, il y a un fluide ou deux fluides, je crois, je ne sais plus exactement, mais mettons un fluide. Ce qui se passe, c'est que c'est quand ce fluide se déplace, il va toucher les cils et donc il va donner des indications de dans quelle position on se trouve.
Pensez au gyroscope de votre téléphone.
Ouais, gyroscope du téléphone ou les niveaux quand on bricole. C'est globalement ça. Quand ça bouge, ça fait bouger les cils et donc ça envoie une information. Et rappelez-vous mon sujet sur les sens, c'est aussi pour ça qu'on peut appeler ça le sens de l'équilibre, parce qu'il y a un message qu'on peut interpréter. Bram, allez. Voilà.
Placement de produit.
Voilà. Je suis beaucoup trop content. Mic drop.
C'est pas pour moi.
Mais donc ce qui se passe quand on est très imbibé d'alcool, c'est qu'en fait, il y a de l'alcool, enfin de l'éthanol qui va arriver dans cette oreille interne, qui va du coup se mélanger, on va dire, avec le fluide, et donc qui va changer son comportement. Vu qu'il va y avoir plusieurs phases, ça va créer du mouvement alors qu'on ne bouge pas.
Est-ce que tu sais quelle est la constitution du fluide qui est dans l'oreille interne?
Non, je ne l'ai plus en tête, malheureusement.
Okay.
En tête.
C'est pas grave.
Non, je ne l'ai plus, désolé. Je vous donnerai ça en détail si vous voulez, mais j'ai essayé de condenser le sujet. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il y a aussi un autre mécanisme qui fait que on a des mouvements on va dire, de translation qui sont transformés en rotation. C'est-à-dire qu'avec ces transformations de bordel de... Ah, petit bruit de micro.
Pardon.
Ces petites transformations dans l'oreille interne, en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout tourne autour de nous. C'est qu'il y a des mouvements qui sont transformés en rotation et on a l'impression que tout bouge. En fait, c'est l'oreille interne qui envoie un message genre « Hey gros, il se passe des trucs », alors que pas du tout. Donc ça, c'est l'effet éthanol et alcool. Donc à l'arrivée et au départ, le fluide qui est dans l'oreille interne a une différence de phase avec l'éthanol et donc ça crée du mouvement. Mais au départ aussi. Donc ça fait qu'il y a un certain mélange qui se retrouve sans éthanol et là, c'est pour ça que le matin, on a aussi la tête un peu dans les fesses. Donc ça, premier truc. Donc ça, c'est l'oreille interne. Effectivement, ça influence sur l'oreille interne. Mais en fait, l'équilibre, c'est pas que l'oreille interne. Est-ce que il vous arrive est-ce que vous avez un autre effet notable de l'alcool? Quand vous êtes vraiment bien, bien pinté?
La sélection d'informations et de fréquences sonores?
Ouais, mais non.
Déficit de l'attention?
Non.
La fatigue?
Ouais.
La nausée?
Ouais, alors.
Le racisme l'attend.
Non, ça, c'est avec les tontons du Sud. Voilà. Non, mais le fait de perdre en sensibilité cutanée.
Ah oui.
Genre, on peut se prendre des chocs et pas avoir mal sur le coup, le lendemain se réveiller avec une énorme marque. Mm-hmm. Et en fait, c'est parce que.
C'est uniquement cutané?
Non, mais quand j'ai cutané, c'est juste pour dire que tu perds en sensibilité. Enfin, ouais, en sensibilité, c'est ça. Et en fait, faut savoir que l'équilibre est géré par trois mécanismes principaux, on va dire. Ça peut être plus complexe, mais trois mécanismes principaux. Il y a donc l'oreille interne. Il y a la raideur de la peau, et donc plus particulièrement de la nuque, et des articulations aussi. Donc en fait, on va s'équilibrer par rapport à ça. Et il y en a un troisième qui est, vous l'avez peut-être en tête, très simple. C'est la vue. Et en fait, on dit que pour pouvoir bien s'équilibrer, il faut qu'il y ait au moins deux de ces trois mécanismes qui soient fonctionnels. D'accord. Donc si on a un de ces deux mécanismes qui est mort, genre si on se fait une petite picousse dans le cou et qu'on est totalement insensibilisé, bah on va toujours avoir la vue et l'oreille interne qui fonctionnent, donc on peut tenir debout. Si on en a deux sur trois, pouf, on se pète la gueule.
C'est comme le test de Bechdel.
Et non, c'est pas du, pas du, non, pas du
deux
tout.
Sur trois aussi.
Mais je trouve ça plutôt rigolo parce que c'est pour ça que quand vous êtes sous, même si, mettons, vous n'êtes pas encore assez sous pour avoir la nuque raide, si vous fermez les yeux, bah, vous pouvez vous péter la gueule en 2-2, alors que vous avez juste l'oreille interne qui est pétée. Et inversement, si vous avez, je sais pas, une grosse courbature ou crampe, enfin, courbature dans le cou et que vous fermez les yeux, même si vous n'êtes pas sous, vous pouvez vous péter la gueule facilement. Et c'est pour ça que j'ose même pas imaginer ce que c'est d'être sous quand on est aveugle.
Merci de nous avoir parlé de tes raideurs de la nuque.
Bah, ça m'a fait plaisir.
Bah écoute, c'était plus recherché que les cafards.
Plus vérifiable.
Bien joué. Bien joué.
T'as vu, j'ai suivi la tradition.
Merci, merci. Ça
à vous, Hicham.
C'est parti.
Comment c'est trop mignon, ouais.
T'es mignon.
Ouais, je suis mignon.
Oh, c'est pas de toi, toi.
Alors, je vais donc vous parler de ce petit mammifère qui est tout mignon, qui ressemble un peu à mon chat quand il se tient sur ses deux pattes avec des poils un peu brunâtres.
Bernard Tapie.
Non. Mais aussi, si vous êtes de ma génération, bah, vous avez peut-être vu Le Roi Lion, et bah, c'est Timon du Roi Lion.
Timon.
In English, please. Timon and Pumba. Bref.
Timon, on dirait une petite vieille, tu vois. Mais
non. En voiture, Timon. Timon t'ignorait.
Stop.
Bon, alors, donc, le suricate, c'est donc un mammifère qui est carnivore et qui est de la famille des herpesticides.
C'est pas le meilleur,
j'aurais
nom.
J'aurais peut-être pas dû le dire aussi lentement. Des herpesticides et des mangoustes. On les reconnaît par leurs oreilles qui sont très courtes et plates, mais surtout aussi parce qu'ils se tiennent sur les deux pattes arrière. Ils sont de couleur marron, avec des reflets orange, doré, argenté, et avec une fourrure noire au niveau des yeux, ce qui n'est pas un hasard, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard.
Ok.
Ils sont tout petits. Ils mesurent entre 25 et 30 cm de la tête aux pieds, et ils ont une queue qui mesure aussi entre 19 et 24 cm. Juan ?
Attends.
Non. Ok, pas de titre.
Attends.
Leur queue peut arriver à leur taille.
Ok.
Il se retient.
Bah ça te fait un doudou pour dormir.
Ouais.
Encore.
Pardon, trop d'images gênantes dans ma tête. Et ce qui est étonnant, enfin pour moi en tout cas, c'est qu'ils sont très 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 légers, mais genre vraiment légers. Le plus gros.
C'est étonnant qu'un animal de 25 cm soit très léger.
Non mais tu sais, ils peuvent peser beaucoup.
Ça dépend de ce qu'il mange, le suricate.
N'hésite pas à donner les mesures.
Gros. Hein. Bah, il pèse un maxi. Le plus gros pèse 1 kg.
Ah putain, une petite bouteille d'eau.
Donc c'est ouais exactement, enfin une bouteille d'eau.
Dans les trois.
Ouais. mais quand même.
Merci d'avoir précisé vraiment, parce que je suis en CE1.
Bref, donc on trouve les suricates. Où est-ce qu'on trouve les suricates ?
En Afrique.
Bien joué. Dans le désert et on n'a pas du tout préparé ça. Dans le désert et dans dans les savanes d'Afrique subsaharienne, enfin vraiment dans le sud, au Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Angola et les Lesotho. En anglais.
Et dans le royaume de Mufasa.
Ah. En anglais, suricate, c'est le nom du suricate en anglais.
Meerkat.
Meerkat, bien joué. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire meerkat?
Déjà, ça vient d'où? Debout, non?
Ça vient d'où?
Je sais pas.
Eh ben, ça vient de l'hollandais, enfin du néerlandais.
Ah bah oui, de l'Afrique du Sud.
Parce que l'Afrique du Sud, donc les colons, qui veut dire chat du lac.
Chat du lac.
Pourquoi? Je n'ai vraiment aucune idée. À pas dire
histoire de chat et de lac, probablement.
Peut-être, mais il n'y a pas beaucoup de lacs. Enfin bon.
Non.
Donc, ils vivent en groupe, entre 4 et 50 suricates.
Un facochère, un lionceau.
Non, mais ils sont tous ensemble, c'est vrai. Voilà. Les suricates du même groupe sont appelés gang ou clan.
C'est un crew en fait.
Ouais, il y a plein de photos sur Google
où se réunissent, ils se mettent à claquer des doigts.
Non mais franchement, il y a plein de photos sur Google quand vous tapez Meerkat Clan ou Gang, on dirait trop une pochette d'un album de rap ou un truc comme génial. Ça.
Ouais, le Meerkat Clan, ils sont très connus.
Oh non. Allez.
Et donc dans ce gang là, c'est la femelle dominante qui gère le gang.
Oh.
Et à l'aide de leurs griffes qui sont, j'ai dit griffes et pas ongles pour une fois, ils sont super, je le dis toujours, ils sont super puissants. Ils mesurent 2 cm de long et contrairement aux chats, ils ne sont pas rétractables.
Putain, mais leurs griffes, elles font 10% de leur taille, quoi.
Effectivement. Okay, enfin, 10%, vrai. Oui.
Pardon, vas-y.
Si ça te fait plaisir. Et ils sont très solides parce que ils creusent avec. Ils creusent avec leur terrier. Mmh. Et il peut y avoir jusqu'à 15 sorties, entrées et sorties.
Eh, pas mal. Hein.
C'est, je trouve ça énorme. Et ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur.
Ah oui, quand même.
Par contre, ouais, quand ils organisent des soirées, ça doit être chiant pour mettre des videurs à chaque entrée.
Et très bien. Et ça leur sert.
Arrête, t'es pas obligé de faire des blagues.
Je te jure. Ça leur sert aussi à se protéger des prédateurs qui sont les hiboux, les aigles, les serpents, mais aussi. Voilà, mais ça leur sert. C'était un point virgule.
Je savais pas comment le prononcer.
Ouais. Mais aussi, donc ça leur sert de se protéger des prédateurs, mais aussi de rester bien au frais quand le soleil tape bien fort. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ils vivent pas que dans un seul terrier. Genre ils ont plusieurs pieds à terre à droite à gauche pour changer un peu. Et puis aussi quand ils vont gambader à droite à gauche. Si jamais il y a le moins de petits prédateurs qui arrivent,
ils dispersent.
Ils peuvent y aller directement. C'est l'option sûre.
C'est un peu des résistants, quoi.
Voilà, le maquis des suricates. Ouais.
Donc, je reviens un peu à ce que j'ai dit au tout début avec la fourrure noire au niveau des yeux. Là. Mm-hmm. La nature fait rarement les choses par hasard. Rappelez-vous, le paresseux, il est lent par technique de défense et non par paresse. Cette fourrure est plus épaisse pour à la fois protéger du soleil, mais aussi parce qu'au niveau des yeux, les suricates, ils ont une paupière transparente qui les permet de creuser sans prendre le sable dans les yeux.
Ah.
Habile, hein ? Bien vu.
Et donc la fourrure noire ?
Pour les protéger du soleil.
Ok. Ouais.
C'est des ribanes, quoi.
C'est ça.
Donc, tous les matins, les suricates, ils bronzent au soleil. Ils profitent de ce moment pour faire leur petite toilette. Et le reste de la journée, c'est soit ils continuent à creuser des terriers, soit pendant qu'il y en a un qui creuse, il y en a d'autres qui font les guets. Et qui lance un cri quand un prédateur s'approche. Ce qui est amusant, c'est qu'ils ont différents types d'alertes. J'ai vu un documentaire de la BBC passionnant sur ça. Genre, quand un prédateur s'approche, mais qui reste loin, on entend ça. Voilà. Ça, c'est le cri qui veut dire il y a peut-être un danger, mais c'est pas urgent, les gars. Tranquille. Après, quand le prédateur s'approche, on entend ça. Le danger commence à être important.
On dirait un réveil le matin.
On dirait surtout qu'il fait le cri, mais sans ouvrir la bouche. C'est bon Dieu. Tu vois, Marge Simpson qui s'énerve.
Et là, pas quand terrible. Ça devient vraiment urgent, ils aboient. Bon, désolé, il y a le fond de la musique de la BBC, mais...
ça sur la BBC.
Mais je voulais vraiment partager ce moment avec vous. Et pareil, ils ont un autre type de cri quand le danger est aérien. On entend ça.
Oh, putain, c'est bon ça. Vas-y, mets-le en boucle.
Ouais, je trouve ça super drôle, enfin la façon dont ils communiquent entre eux et qu'on est arrivé à trouver cette
voilà.
Et bref, donc toutes les heures, les rôles tournent comme ça, tout le monde met la main à la pâte.
Eh bien.
Non.
Et soit ils cherchent à manger et puis soit ils creusent, et donc du coup
leur journée n'a pas l'air très drôle hein.
Ouais, bah écoute, c'est des animaux hein. Et comme je l'ai
dit... Ça va, Héloïse.
On en parlera après, Michel.
Ça marche. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, et j'ai appris ça en le faisant le petit sujet, excusez-moi, les suricates sont carnivores. Donc, ils mangent de la viande, mais pas que. Ils mangent aussi des lézards, des oiseaux.
Qui sont de la viande, du coup.
Alors non, vous saurez que pour Hicham, de la volaille et de l'oiseau, ce n'est pas de la viande.
Bref, et des insectes, et des fruits. Et de temps en temps, ils ont leurs petites friandises, qui sont les scorpions.
Mais ils mangent les cobras aussi, non?
Oui.
Il n'y a pas le cobra et la mangouste?
Non.
Ah,
j'ai jamais vu de suricates qui mangeaient un cobra, mais peut-être que je me trompe. Je
t'as pas vu tous les suricates du monde?
Ah non, ça c'est déjà. Sûr. Mais bref, donc les scorpions, qu'ils soient venimeux ou pas, ils s'en battent les couilles. Suricates adultes ont un système immunitaire puissant contre le venin, sauf pour les bébés suricates qu'on appelle les siritaques.
Ça c'est une faute de frappe, mec.
Non, franchement, les siritaques.
C'est quelqu'un qui a une patate dans la bouche et qui essaie de dire suricate.
Non, siritaque.
Ou un enfant de 2 ans qui dit suricate. Siritaque.
Donc les siritaques sont trop petits pour avoir un système immunitaire poussé, et donc leur mère coupe la queue du scorpion.
Elle leur coupe la nourriture avant de manger, c'est trop mignon.
C'est extrêmement mignon.
Et donc la maman siritaque peut donner naissance jusqu'à 8 siritaques d'un coup.
Oh shit.
Ouais, mais la moyenne reste quand même entre 3 et 4 siritaques.
Ok, mais attends.
On dirait juste que t'arrives pas à dire suricate.
Siritaque.
Tu... Non, ouais. Non, rien. Ok. Donc, elle donne naissance sous terre, donc dans le terrier, et les bébés, ils restent jusqu'à 9 semaines pour le sevrage, mais aussi pour les tenir écartés de tous les prédateurs, parce que c'est con un bébé sur le suricate.
Ah bah.
Ils naissent aveugles, sourds, et ils ont pas de poils. Ils pèsent entre 25 grammes et 36 grammes.
Ce sont des aubergines.
Et ce n'est qu'au bout de un an et demi, que les siritaques deviennent suricates et ils peuvent à leur tour avoir leur propre enfant.
Fais ta blague.
Tu t'es endormi devant la BBC, tu t'es réveillé devant Pokémon, c'est pas possible. Oh, siritaque devient suricate.
Donc, la maman suricate dominante, elle est vraiment hardcore. Elle peut forcer les autres femelles du gang à allaiter ses enfants, si elle le souhaite.
Oh la vache.
Fais-lui du lait.
Ce phénomène est appelé allo-parenting ou allo-lactation. Je trouve ça un peu comme allo-resto, genre l'ubérisation de la lactation. Et en général, les femmes qui font ça, c'est parce qu'elles ont perdu leur gosse. C'est soit elles ont fait une connerie et donc doivent faire ça pour se racheter et pour pouvoir rester dans le gang, elles font donc pénitence.
oh non
la maman dominante, elle est un peu relou aussi, elle autorise que très peu de fois qu'une autre femelle du gang elle autorise.
Là, t'as une suricate qui arrive. Oui, femelle. Elle enlève sa fourrure. Furry's murder.
Elle autorise très peu de fois que d'autres femelles du gang aient des enfants. Tout ça pour éviter qu'il y ait de la concurrence avec ses propres enfants. Donc, ça ouf.
Bah,
et donc, si la mère dominante ne veut pas, elle les tue à la naissance.
Ambiance.
Tout simplement.
J'ai bien aimé la chute.
Ce mot signifie. Je vais plus parler le roi lion.
Donc les suricates, ils ont l'air tout mignons, tout ça, mais c'est vraiment des barbares. Quand il y a des deux gangs qui s'affrontent, par exemple, t'as vraiment l'impression de regarder un épisode de Game of Thrones. Bon, j'exagère. Game of Thrones, où c'est un peu comme nous les humains au Moyen Âge, ils attaquaient.
Mais du coup, est-ce qu'il y en a aux États-Unis ce genre de d'animaux?
Attends, il a une blague. Vas-y, fais-la.
Parce que si, ça pourrait être des gangs de New York.
Quoi,
c'était New York.
C'était à
chier. Pas compris.
Tiens, tu veux bien clapper parce que celle-là, vraiment, je vais la couper parce que c'est la honte.
Non,
là, je me sens mal.
Non.
Mais Gangs of New York, ça va.
J'ai honte.
Alors, pardon, vas-y.
Je sais même plus où je suis avec
tes conneries. Tu disais que donc, quand deux gangs
se rencontrent. Oui, c'est le bordel. Ils s'attaquent un peu comme au Moyen-Âge. Ils se ruent dessus. Bon, ils n'avaient pas d'armure ou d'épée. Mais c'est un peu dans le même délire. Et les guerres des suricates peuvent causer beaucoup, beaucoup de morts. Donc. Sérieux les gars, c'est un sujet très sensible.
C'est avec un sérieux.
Non mais il faut pas négliger.
Qu'est-ce que
tu entends
par beaucoup
trop. Un génocide de
suricates.
Quoi?
Non. Celle-là.
Quoi?
Allez, c'est cadeau mais.
J'ai bientôt fini les gars.
Beaucoup de morts.
Il y en a beaucoup. Genre dans un gang de 50.
La légendaire précision dit chouchou, le retour. Mais...
Bah, entre peu et la totalité au final.
Voilà, ils en font beaucoup.
Voilà, ça nous fait une idée, très bien.
Et du coup, bah, ils jouent plus à un jeu d'intimidation. Genre, ils vont vraiment en guerre quand ils ont pas le choix, on se retrouve dans une situation où ils sont bloqués politiquement. Qu'est-ce que je... Non, mais c'est...
Il fait chaud, hein.
C'est pas un truc de ouf. Du coup, ils font vraiment un jeu d'intimidation. Ils se regroupent tous ensemble, dressent leurs poils et ils font du bruit.
Un peu comme un chat en colère avec mes... Avec
un peu comme le ratel.
Ou un battle de hip-hop.
Ou tous les animaux.
C'est pas faux.
Non, le crocodile, il dresse.
Mais
pas
j'ai déjà vu justement un groupe de enfin encore une fois sur YouTube, hein, de 6 suricates qui, il y a un cobra qui est rentré dans leur terrier.
Voilà, je t'ai dit. C'est
ouais, mais cobra. Ils l'ont pas bouffé quand même.
Mais non, mais il a du, comme tu dis, ils ont un truc avec le venin, donc ouais. S'ils sont piqués.
Ah non, j'ai vu un pauvre petit, il en est mort. Il s'est fait.
Je suis sûre. Attends, je vérifierai. Le cobra et la mangouste, il y a un truc.
Ok.
Ça marche. Okay. Je suis sûre. Mais oui, en tout cas, voilà, il y avait le cobra dans le terrier et ils se sont retrouvés assis en mode.
Ils organisent en fait des
combats. Et puis le cobra, il en a eu tellement marre au bout d'un moment, il s'est barré, tout simplement.
C'était passionnant comme histoire.
Oui. Et il faut savoir aussi que le mammifère le plus meurtrier de sa race.
Et l'enculé de sa race.
Et donc qui tue le plus d'individus de sa race, ouais. C'est les suricates et non pas les êtres humains.
Non.
Et pas les hommes. Ouais.
Attends, mais proportionnellement.
Oui.
Oui, ouais, parce que ce n'est pas 7 milliards. Le...
Non, le taux de meurtre entre congénères est de 20%.
Oh la vache.
Que ça soit pour une guerre, d'une agression intergang, d'infanticide, de défense de territoire, de cannibalisme ou abandon maternel, les champions restent les suricates.
Oh la vache, c'est énorme.
Ouais, il y a une étude, donc pour nous les êtres humains, il y a des scientifiques qui ont mené une étude sur une période qui va du paléolithique.
C'était quand
même de moins 50 000 à moins 12 000 avant Jésus-Christ, je m'y attendais. Jusqu'au dernier siècle, là, les chercheurs sont arrivés à une conclusion que les êtres humains ne tuent que 2% comparé aux 20% des suricates.
Très bien.
C'est bien. La pire conclusion.
Ah, elle était bien. Hein.
Je pensais que je l'avais bien travaillé, mais en fait, non, pas du tout.
Mais le sujet était vachement bien.
Ah, non, mais la conclusion. Ouais.
Non, mais t'aurais dit 2%, bah, c'est littéralement 2%. Alors, ouais. 2% comparé au. Oh, il faut en abaisser plus tard, massage cardiaque. Non, mais trop cool par contre.
Regardez, là-bas.
Un souricat.
C'était mais par contre, cool d'avoir à nouveau un sujet animalier.
Ouais, c'était super chouette, mais tu viens de me pourrir le Roi Lion. Je pourrais jamais le voir pareil.
Alors,
avec, genre,
figure-toi que le Roi Lion 3, qui est pas un bon film du tout, ça c'est, tout le début s'est concentré sur Timon et sa famille.
Timon.
Et Timon, si tu veux. Et justement, ils montrent tout ce que font les suricates en creusage de terrier, guetter, machin. Et en fait, Timon, il doit aller guetter, et du coup, il fait chier, et du coup, il s'en va, il rencontre Pumba. Voilà.
Cool. Et ouais. C'est pour ça aussi dans je reviens non juste désolé Juan mais dans mon jingle tu sais quand il dit oh c'est mignon c'est tout mignon et puis après oh je suis mignon ouais, c'est moi qui est mignon bah c'est parce que justement c'est un contraste. Je vous explique un peu ma pensée d'artiste.
D'accord.
C'est un contraste entre ils sont mignons mais ils sont badass. Aussi badass.
Ok, très bien.
Pain, pain, pain.
Alors Juan, de quoi tu vas nous parler?
Mais je vais partir déjà. déjà je vais lancer mon jingle.
Allez.
Parce que vous m'avez coupé et j'ai pas pu le mettre. Yes, I'm the rhino, the ballerino. Oh yes, I'm the rhino. Rhinocéros. Je l'ai fait il y a 5 minutes.
Ouais, pour un jingle.
Donc, je vais vous parler du parti rhinocéros. Alors, je vais vous faire une courte description parce que j'ai pas envie de faire un sujet d'histoire parce qu'il fait chaud. Donc, je vous parlerai plutôt d'un autre point assez intéressant. Mais le parti rhinocéros, donc, il a été créé en 1963 par Jacques Ferron, qui était un médecin, un écrivain et un mec plutôt marrant.
Très bien.
Et pour avoir créé un parti de rhinocéros,
voilà.
Tu peux pas être pas drôle.
Il s'est autoproclamé éminence de la grande corne du parti rhinocéros. Bon, ça fait un peu Dali. Et il a créé ça avec Paul Ferron, son frère, et un certain Robert Millet. Et le but, c'était de se foutre de la gueule des politiciens de l'époque. En fait, ils ont créé un parti satirique pour moquer un petit peu les élections canadiennes. Un peu comme nous, on avait eu Coluche.
Oui, c'est vrai.
Il a fait après la même chose, mais il l'a fait bien après. Donc, Coluche n'avait pas inventé le principe de se présenter à des élections pour se foutre de la gueule des autres. Et le credo de base du parti rhinocéros, c'était de ne jamais tenir ses promesses électorales.
Bon, un peu comme maintenant, pardon, tu disais.
T'as compris le principe d'un parti politique satirique. Très bien. Alors, pourquoi un rhinocéros?
Parce que c'est grand, c'est imposant, c'est fort. Et c'est en voie d'extinction.
Parce qu'il a deux cornes qui lui permettent de bien voir son avenir.
Non. Alors, ils ont choisi le rhinocéros comme symbole, en effet, parce que les politiciens ont par nature la peau épaisse, parce qu'ils seraient un peu cons. Un peu lent, très rapide quand ils sont dans la merde, ils aiment se rouler dans la boue et qu'ils ont de grandes cornes qui leur poussent sur la gueule et qui obstruent leur vision. Et ça, c'est vrai, le rhinocéros voit mal en fait, plus il a des grandes cornes, moins il voit bien. Et du coup, il a tendance à se prendre des trucs en pleine gueule. Donc, ils ont voulu faire un petit parallèle assez subtil entre le rhinocéros et le politicien professionnel.
Oui, il paraît que Dalida avait le même problème, mais...
C'était, elle avait un chauffeur. Inspiration, du coup, du rhinocéros, c'est inspiré par l'œuvre d'Eugène Ionesco.
Vous ah oui, oui, le seul livre que j'ai lu au lycée.
Et voilà, exactement. Donc, pour le rappel, c'était une œuvre de théâtre absurde, au même titre que La Cantatrice Chauve, n'est-ce pas, Hicham?
Tout à fait.
Et qui dépeint une épidémie imaginaire de rhinocérite, qui effraie tous les habitants.
Qui a un rapport avec le nazisme, d'ailleurs.
Absolument, c'était une métaphore de la montée des totalitarismes. Ah, ben, tu te rappelles de ton lycée?
Ah non, mais c'est vraiment, si je l'ai lu, c'est parce que je l'ai kiffé.
Bref. Le parti fait son petit bonhomme de chemin, et lors des élections, je rappelle qu'il a été créé en 63.
Attends, est-ce que t'as précisé le pays?
Le Canada.
Ok, merci.
Lors des élections fédérales de 84, ils ont eu 89 candidats quand même au Canada qui se proclamaient du parti rhinocéros.
Mais dans tout le Canada ou c'était dans une région précise ?
Dans tout le Canada.
Ok, d'accord.
C'était, en fait, ça s'est réparti au fur et à mesure.
D'accord. C'était pas mal.
Et ils ont obtenu pratiquement 100 000 votes. Donc ça fait 0,79% du nombre total de suffrages, ce qui en fait le quatrième parti du Canada.
C'est plus que Jean-Vincent. Non, comment ça
s'appelle,
Monsieur 3%.
C'est plus que beaucoup de monde, oui. À l'échelle d'une élection. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant qu'ils aient eu autant de voix. Donc après, aux alentours de 85, en 85 en fait, Jacques Ferron est mort, puisqu'il est pas mort sur plusieurs années. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Le parti annonce du coup à ce moment-là qu'il va se saborder, se couler lui-même. Et le coup de grâce pour le parti survient en 93, lorsque les règles de reconnaissance des partis politiques changent au Canada et qu'il est nécessaire de faire 1000 dollars de dépôt par candidat, vu qu'ils ont et qu'ils ont besoin d'au moins 50 candidats, ce qui fait 50 000 dollars. Et... donc ils ont pas 50 000 balles à mettre dans une vanne de merde, donc il lâche un peu l'affaire.
Okay.
En 93. Mais, par la suite, le phénix renaît de ses cendres à Montréal le 21 mai 2006.
Ouh.
Un monsieur qui s'appelle François Gour, surnommé Yo.
Quoi?
Yo, voilà.
Y-O?
Y-O. Autrefois, donc, qui était une figure importante.
Oh, yogourt, putain!
Voilà, t'as compris la blague. Autrefois, figure donc importante de l'ancien parti rhinocéros, parce que tous les membres avaient le statut de vice-président.
Génial. Ah,
du coup, c'était tous des membres importants. Il crée un parti qui s'appelle le Néo-Rhino. Alors, d'où vient la ref, d'après vous? Ça fait référence à quoi?
Le rhinocéros.
C'est pas une blague.
Donc, le rhinocéros, oui, par rapport à l'ancien parti. Néo, par rapport.
Néo-nazisme.
Non. Au personnage principal de Matrix. Voilà.
Ah oui, sérieux.
Littéralement, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, bon, non, par rapport à Matrix.
Attends, mais c'est
qui leur dealer?
C'est comme si le Gorafi avait
bonne question. C'est comme si, oui, plus ou moins. Donc, Yogourt a été le chef de 2007 à 2014 et le chef actuel du parti est Sébastien Corriveau. J'ai pas trouvé son surnom. Et le parti promet, comme son prédécesseur, de tenir aucune de ses promesses électorales, sauf celle de démissionner s'il est élu. Et ça, c'est pas mal.
Comme Bouteflika.
C'est pas vrai, il a démissionné.
Donc, parmi les promesses du nouveau parti, il y a celle d'enlever les armes des soldats pour les remplacer par des fusils à peinture. Repeindre la Havane.
À balles réelles.
Ouais. Construire une toile pour refermer le trou de la couche d'ozone, donner le droit de vote aux chiens et aux chats, etc. Ah oui, ils veulent aussi construire un toit au-dessus du Québec et mettre une forêt dessus pour filtrer la pollution.
Ah. Ils sont trop bien.
Et c'est là que je voulais en venir, parce que le cœur du sujet, il est là. Je voulais juste vous donner un petit top des promesses qui ont été faites depuis 63. Ça fait quand même, il y a eu le temps d'y en avoir. J'ai fait une petite sélection parce qu'il y en a des centaines. Des promesses que vous êtes libre de débattre, si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est un projet viable.
Ah, faut savoir que là, en cet instant, Juan tient son micro à la main, j'ai l'impression d'être à un mariage. <je te jure. rire> Ou dans un supermarché en train de me faire vendre des salades.
Alors...
Goûte ce gouda au cumin.
Vas-y.
Donc, les promesses contenues dans la plateforme du Parti Rhinocéros incluées, ceci est une liste non exhaustive, abolir la loi de la gravité.
Oui, très bien.
Ça, moi, je pense que oui, il faut.
C'est faisable, d'après moi.
Ah, la gravité, ok. Gravité.
La gravité, oui, le truc qui fait que tu tiens par terre.
Oui.
réduire la vitesse de la lumière, parce qu'elle va beaucoup trop vite.
Ah bah oui. Oui, oui.
Et ce qui fait qu'on gagnerait du temps.
Enfin, absolument.
On aurait plus de temps.
Non mais tout est censé dans ces propositions. Également, fournir une éducation plus élevée aux Canadiens. Et pour arriver à ce but, il s'agirait de construire des écoles plus hautes.
Ah oui.
Voilà.
C'est... Oh putain, ils sont trop bien. Ouais.
Ils sont plutôt chauds. Un autre projet que j'ai trouvé intéressant, il proposait de démolir les montagnes rocheuses, vous voyez les rocheuses aux États-Unis, de sorte que les électeurs de l'Alberta puissent voir se coucher le soleil. ou alors, parce que là c'est quand même compliqué de détruire des montagnes, il proposait de les déplacer d'1 mètre vers l'ouest pour créer de l'emploi. parce que déplacer des montagnes, ça pourrait relancer quand même la croissance.
Et ils sont, voilà, c'est un bon parti quand même. Hein. Ils pensent à la population et tout.
Ils sont meilleurs. Après, si vous voyez une raison, un contre-argument sur une de ces propositions,
pour l'instant,
vraiment,
pour le moment,
ils auraient pu mettre juste les montagnes en hauteur, tout simplement.
C'est une proposition. Après, ils n'ont pas tout budgétisé parce que c'est quand même, ils avaient.
Faut d'abord.
C'est déjà des gros projets.
Retirer la loi de la gravité et après.
C'est vrai.
Et oui, voilà.
Donc, une politique selon.
Je ne sais pas si les deux ont été proposés la même année ou si la gravité a été proposée avant. Il proposait également de mettre fin à la crise de l'énergie en réduisant les coûts de transport. Donc, solution simple pour ce faire, déplacer les villes de Montréal de 50 km vers l'ouest et Toronto de 50 km vers l'est.
Ah, bah c'est pas bête.
Ça permettrait de pouvoir rejoindre les deux villes en consommant moins de carburant.
Ça, c'est vrai.
En parlant de consommer moins de carburant, du coup, ils ont cherché une solution ailleurs que celle qu'on a déjà trouvée pour la crise de l'environnement. Ce qu'ils proposaient, c'est d'abolir l'environnement parce qu'il est trop difficile de le garder propre et qu'il prend trop d'espace.
Il est relou, cet environnement.
Abolir l'environnement, ça permettrait de libérer de l'espace dans le débat.
Ils ont raison.
C'est du génie. Oui, tout à fait. Quand t'as la flemme de nettoyer ta vaisselle, tu prends pas de vaisselle.
Oh, oui, exactement. Alors, une autre proposition plutôt, pour le coup, plutôt faisable, hein, plutôt cool. Le Canada proposait d'annexer les États-Unis dans le but, tout simplement, statistiquement, d'élever la température moyenne du Canada d'un degré Celsius.
Ah bah oui. Voilà.
Pour qu'on ne dise pas, il fait tout le temps froid au Canada.
D'accord.
C'est du génie.
Ça fait sens. Encore une fois, assez simple, assez faisable, créer un moustique donc qui ne naît qu'en janvier, de sorte que le maudit Christ de tabarnak meurt gelé. C'est ce qui avait marqué sur le texte qui avait été proposé.
Mais c'est génial.
Donc je voilà.
Je les aime, il y a un film sur eux, je vois.
La loi, non, mais tu peux suivre 50 ans de politique canadienne sans problème.
Ah, mais c'est trop bien.
Il proposait, alors, là, beaucoup plus simple, fermer la rue Sainte-Catherine de Montréal pour en faire la plus longue allée de bowling du monde. Ce ne semble pas tout à fait viable. On pourrait le faire en France. On le fait tous les samedis depuis quelques mois. On pourrait également aussi adopter le système britannique de conduite du côté gauche. Alors, gros changement, compliqué à mettre en place. Alors, ils ont proposé quelque chose pour faciliter tout ça. C'est de le mettre en place graduellement en 5 ans, en commençant avec les gros camions,
puis
les autobus, puis les petites voitures, puis les bicyclettes.
J'ai connu celle-là.
Voilà.
Pas mal les bicyclettes.
Il restera plus grand-chose. Du coup, il y aura de la place pour les vélos. Une autre que j'ai trouvée là pour le coup brillante, ils ont réfléchi, mettre la dette nationale sur une carte Visa et la déclarer volée. Ce qui permettrait d'annuler la dette. Et ça, bravo au gouvernement français de n'y avoir jamais pensé. Ouais. On passe un peu pour des cons.
Ils sont très très bons.
Non mais ça me scandalise. Autre simple, déclarer la guerre à la Belgique, parce que
comme ça fait
pourquoi pas. Alors eux, leur raison, c'était que dans la BD belge, donc Tintin tue un rhinocéros. Donc ils se sont dit que c'était symbolique, que ça leur permettrait d'obtenir le soutien des gens les plus populistes ou les plus premier degré.
Puis surtout, ils sont pas champions du monde, donc on s'en fout.
De surcroît, ce n'est pas le sujet. Autre projet, pareil, simple, intéressant, pourquoi on l'a pas fait, rendre les Canadiens plus forts en mettant des stéroïdes dans l'eau courante. Plutôt simple.
D'accord.
Une plus compliquée mais très simple puisqu'elle tient en deux mots et demi, interdire l'hiver.
Ah oui, mais ça
surtout au Canada, ouais, je comprends.
Surtout au Canada.
Ouais. Ça suit le abolir l'environnement.
Et en plus en interdisant l'hiver, la température moyenne de l'été va baisser.
Va baisser exactement et les crises de moustiques. Voilà. Celle-ci, bon, c'est vraiment pour être sympa, pour s'attirer quelques votes, mais ils voulaient offrir une goupille à l'île de la Grenade. Voilà. Ça vous fera réviser votre géographie, c'est bien fait.
C'est génial.
Ils proposaient également d'éliminer la faim et l'obésité en donnant les gros à manger aux pauvres.
Ouais. Ah bah ça peut marcher. Hein.
Mais oui.
C'est du foie gras.
Oui. Ils cherchent à draguer également les associations, par exemple les clubs de pêcheurs. Donc ils proposaient d'asphalter le fond du lac Saint-Jean pour que les hameçons arrêtent de s'y accrocher. Parce qu'apparemment c'est un problème là-bas.
Bon, d'accord. Ouais, chacun ses problèmes. Hein.
Exactement. Unifier Cuba et le Québec. Et former un pays qui s'appellerait le Québec.
Le Québec,
c'est logique.
Super.
Très beau projet. Éliminer le mot dictionnaire du dictionnaire. Comme ça, quand on consulte le dictionnaire, en réalité, on feuillette quelque chose qui n'existe pas.
Oh.
Voilà, ça donne à manger aux intellectuels. Concrètement. Rassurez-vous, c'est presque fini.
J'allais dire, putain, il est long le
problème.
Encore, c'est pas tout.
Proposer d'enlever le mot corruption du dictionnaire afin que la communauté italienne s'exile du Québec.
Putain.
J'ai trouvé ça un petit peu gratos et ciblé. Mais bon. Je pense que celui-là, il date plutôt de 63 que de 2013.
Elle est un peu limite, celle-là.
Et donc, le dernier que je vous ai déjà cité, la promesse qui résume toutes les promesses, ne respecter aucune promesse.
C'était magnifique. Beau. Ouais, je suis amoureux de ces personnes.
Ils sont très très drôles.
Je suis politiquement amoureux.
Vous pourrez consulter à loisir les propositions du Parti Rhinocéros, s'il y en a beaucoup.
Cool. Bah, trop trop bien. Mais j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'espère que vous aussi.
Ouais, oui, c'était cool.
C'était un très bon moment. Là, on commence à cuire parce qu'on est saoulés
totalement.
Ouais. Ouais.
Donc, on va clairement aller se rafraîchir, prendre une petite bière, prendre l'air.
Et on est qu'en avril.
Et vous. Ah, putain, va falloir qu'on descende le studio. Mais c'est vraiment, c'était un très très chouette épisode et une très belle journée puisque le soleil brille encore. Le ciel est encore bleu, en tout cas, par le petit carré de fenêtre. J'espère que les nuages sont pas cachés sur les côtés. Mais ce qui veut dire que d'ici quelques heures, on va vous retrouver pour prendre un petit verre.
Et rappelons que vous écouterez ça dans deux semaines.
C'était donc super cool.
Eh ben, laissez-moi raconter ma vie.
Fallait pas nous offrir une voiture, franchement.
non mais ça va être très très cool et puis
il a glissé sur un Bourville, je sais pas ce qui s'est passé
mais tu m'as fait penser tout à l'heure et bah si oula pas un putain de condor qui vient de passer devant la fenêtre là.
T'as un petit pigeon.
Ouais. Donc oui, si tout va bien, tu me confirmeras peut-être, Juan, on devrait avoir une invitée l'épisode prochain.
Ah peut-être, bah on verra. On peut pas savoir, on peut pas deviner le futur.
Ouais. Peut-être, et en tout cas dans les prochains, on devrait être rejoint par des personnes fort sympathiques, intéressantes et passionnantes.
Pareil,
et
on peut pas savoir.
Oui. Non, il y a des personnes très chouettes qui vont venir, et puis on remercie Louise d'être venue, c'était très chouette.
Oui.
Et ça fait écho à d'autres discussions qu'on a chez Pardon Maman de futurs sujets, et ça va ça me donne envie de faire des tests pour pouvoir comment je peux intégrer ça dans ma vie de quotidienne en tout cas personnellement.
Cool, bah c'est bien,
j'espère que ça aura intéressé d'autres personnes.
Tant mieux.
Ouais,
et j'espère que t'as passé un bon moment également.
C'était très sympa, j'avais un petit peu peur au début mais en fait très à l'aise, voilà.
Ah,
ça
c'est
va.
Oh, bah, c'est cool.
C'était
hein.
drôle.
Plaisant. On est content alors.
Oui.
Et puis nous dans tous les cas on vous fait des bisous, on vous embrasse et on se voit soit dans quelques heures, soit on s'écoute par micro interposé.
Encore une fois, c'est pas en live.
Laisse-moi rêver.
Je vais mettre fin à tes souffrances.
Allez,
et à ton doublage.
Bisous à tous.
Gros bisous les enfants.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.